Vous écoutez
RMC.
Les drôles de dames vous attendent au 32-16. Il est 20h01, vous êtes sur RMC.
RMC.
Ouais, juste pour conclure, il y a une phrase célèbre dans le foot.
C'est insupportable de donner une note. La poste vient de voir, tu reçois un mail en disant faut le noter. Tu regardes un film, on te dit s'il a plu, faut le noter. Ben, allez vous faire voir, les gars.
Di Maria, il est tout seul. Di Maria, t'es nul. Mais t'es nul, Di Maria. Il a frappé au-dessus, Di Maria. Di Maria, tu es nul.
The best league in the world. Come on, the Premier League. Every single day.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Villas.
Et l'after est là, comme chaque soir et comme chaque lundi. Vos drôles de dames sont là. Qui dit trêve internationale dit semaine spéciale ce lundi. Nos drôles de dames vont vous donner leurs souhaits, leurs avis pour l'Euro qui débute le 14 juin. Avec nos drôles de dames, on va aussi se mettre dans la poule celui qui anime déjà le mercato des entraîneurs, Xabi Alonso. Et si vous étiez l'actuel entraîneur des Leverkusen, vous feriez quoi la saison prochaine? Venez jouer à ce petit jeu avec nous. Et puis on vous attend au 32-16 et sur le chat de la chaîne YouTube de l'After Foot pour poser vos questions également. Merci d'accueillir celui qui aime autant les pâtes que la pâte de Zerbi, qui aime saucer Mota autant que la bolognaise. Salut Johan Crochet.
Salut Nico.
J'ai eu peur de crocher à un moment justement. Mais
t'as dit saucer Mota.
Ouais, j'ai dit saucer.
Alors la bolognaise. La bolognaise plutôt à ragoût.
Oui, mais enfin, sous le pain, il entraîne Bologne, il entraîne pas ragoût, donc j'y peux rien.
Oui, mais bon, on dit pas la bolognaise.
Mais du casse pas son goût.
Voilà.
Il a mis 3 points.
La prochaine fois, je dirai des trucs méchants. Depuis qu'il a quitté l'Espagne, la Fédé va de crise en crise. Zidane ne veut plus entraîner. Il se dit même que Xavi attend son appel pour trancher sur son avenir. Fred Hermel.
Hola chicos.
Comment il va?
Bah pas mal aujourd'hui, ouais.
Ouais.
Ouais, ça va, je me suis remis ma petite goutte là et tout ça, je commence à recourir. Ouais, c'est des trucs de vieux, tu sais, donc.
Je sais ce que c'est. Enfin non, j'en sais rien en fait. Mais... Si Southgate était une sortie du périph', il ferait tout pour l'éviter. Heureusement qu'il est une star au Royaume-Uni. Il roule même en Aston Martin, paraît-il. Salut Julien Laurence.
Salut Nico, salut à tous.
En fait, je voulais lancer
pour l'Aston Martin.
Bah, je voulais lancer, je me souviens jamais comment s'appelle le frère de l'actrice là, qui t'a reconnu.
Alfie Allen, le frère de Lily Allen. Ouais,
mais moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est quand il a fait deux bises à Jesús Pérez.
Ah, c'est un bon souvenir. Sur le banc, bien sûr. Ouais. Ne lui parlez pas d'Aston Martin. Pour lui, la voiture se résume en trois lettres. BMW. Selon nos informations, il a tellement kiffé le France-Allemagne qu'il ne quitte plus son maillot rose. Salut pour le Breitner.
Bonsoir mon cher Nico, bonsoir tout le monde. C'était presque parfait. Il y a juste un mot à enlever, c'est le mot kiffer qui me fait saigner des oreilles à chaque fois que je l'entends.
Il a tellement hypé par le dernier France-Allemagne, c'est mieux non?
Ouais, tu peux essayer de le franciser aussi.
Bon, il a tellement aimé, voilà.
Puis c'est pas les BM, Polo, c'est plutôt les Trabant, non?
Ah non, lui justement, c'est une révélation qu'il nous a faite l'autre jour. Il est fan de BMW.
C'est vrai, mais je n'ai eu que des BMW.
Ah ouais.
La première bagnole, je suis endetté pendant des années, c'était BMW. Une 328 IS coupée.
Ah ouais. Si vous vouliez tout
ça. Pas le même monde. Hein. Moi, c'était R5, les 5 de ma mère. Hein.
Il est aussi bon qu'un Chanel, aussi beau qu'un Hermès. Et ils sont aussi bons que le pur essentiel. Salut Nico Jamin. J'essaie de rattraper le coup.
Excellent produit, pur essentiel.
Excellent.
Je tiens à le dire.
Tu sens très bon d'ailleurs. T'en as pas mis toi aujourd'hui?
Tout à fait, Nico. Tous les matins. C'est mon déo. Non, mais. Pas mal, hein?
Ouais, c'est pas mon genre, mais.
T'as rien senti, arrête.
Ah non, j'ai rien senti, c'est pour ça, c'est pas mon genre.
Alors, quel est le programme à partir de 22h?
Alors, l'after, demain soir, France-Chili, nos infos compo probables, on va en parler. Mbappé sera titulaire, avis tranché de Daniel également, qui estime que le match, la défaite contre l'Allemagne, est le symbole de la faillite technique du football français. On n'a pas la maestria espagnole, on n'a pas la maestria anglaise. En Italie aussi, t'es pourvu en joueur créatif.
Tu cherches un peu, Nico, quand même. Hein,
en tout cas, en galère. Au milieu de terrain, notamment quand Griezmann n'est pas là, on va en parler. Flo veut que Deschamps sorte du placard le 3-5-2 en équipe de France pour aider Marcus Thuram. Bien trop seul, il veut le voir façon Inter Milan, aidé par un équivalent Lautaro Martinez. Je ne sais pas si on a ça en boutique. On va lancer également le classico de dimanche soir. Marseille-PSG. Marseille était trop affaibli pour espérer quoi que ce soit dimanche face au PSG. Défense décimée. Ce sera à partir de 23h. Et puis, on va aussi évoquer le procès Saïd Chaban, propriétaire d'Angers, qui a ouvert aujourd'hui affaire de blanchiment. Est-ce le symbole ou un symptôme des dérives du football actuel? Ce sera dans l'after avec Daniel Riolo et Flo Gautreau ce soir.
Merci beaucoup Nico, c'est parti avec les drôles de dames. Tiens, juste avant ça, sachez que c'est le retour du coffre RMC, on vous offre jusqu'à 50 000 euros dès que vous entendrez ce signal. Est-ce qu'on l'a? Ah bah, il y aura un signal, ce sera l'alerte son coffre. Vous aurez 5 minutes pour envoyer coffre au 7-32-16 le vendredi 29 mars. L'un ou l'une d'entre vous sera avec nous dans l'émission pour ouvrir le coffre. Si vous êtes sélectionné, vous repartirez avec 2 500 euros, mais vous pourrez remettre la somme en jeu en ouvrant le coffre RMC. Si vous osez l'ouvrir, vous gagnerez soit une semaine de vacances dans un des campings Taycan en France pour 6 personnes, soit la somme de 50 000 euros. Envoyez coffre au 7-32-16. Attention, l'alerte, elle peut intervenir n'importe quand, y compris pendant les pubs, donc restez bien à l'écoute. Tiens, Foussouve, comme on dit dans le jargon, mon polo, est-ce que ça y est, la Nationalmannschaft tient son match référence après le 2-0 là, face aux Bleus là.
On peut voir comme ça. Ce qui est sûr, c'est de là d'où partait l'Allemagne, remporter en France cette rencontre d'une façon convaincante et technique. C'est ça qui est quand même très important. Avec un Nagelsmann qui a trouvé un nouveau schéma de jeu en 4-3-2-1, il faudrait expliquer et voir un petit peu ce que le positionnement de Gundogan sur le terrain. C'est évidemment quelque chose d'assez extraordinaire lorsqu'on voit, qu'on part avec les matchs face à la Turquie ou face à l'Autriche, par exemple. Maintenant, je constate que c'est la deuxième fois à la suite que l'Allemagne bat la France. C'était au mois de septembre et qu'après, ça s'était écroulé aussi. Donc, on va attendre un petit peu avant de s'emballer. Mais ce qui est sûr, c'est que le grand gagnant de cette rencontre, c'est pas un joueur, même s'il y a Toni Kroos, le retour de Toni Kroos, etc. C'est surtout Nagelsmann qui a envoyé un message aux 80 millions de sélectionneurs allemands en leur faisant comprendre, c'est moi le boss, regardez ce que j'ai fait. Et c'est un peu la théorie que je disais ce week-end. Il a fait plus pour moi un acte politique qu'un acte sportif, puisqu'il a complètement dégradé la génération intermédiaire, ceux qui ont 26 ans, 28 ans. Le boss, le nouveau boss, c'était l'ancien, c'est Toni Kroos, 34 ans. Et les boss techniques, c'est aussi la jeunesse avec Musiala et Wirtz devant. Le reste, ce sont des besogneux. Kimmich, tu n'es plus une star, tu es un arrière-droit, tu dois faire ton boulot, et voilà. Donc on aura Neuer dans les buts, les anciens, champions du monde encore, hein, en 2014, et puis la jeunesse. Mais la génération intermédiaire, et je pense que moi, c'est un énorme message qu'il a envoyé, il a fait sa sélection, quand je dis sélection, il a éliminé des personnes, et je pense évidemment, encore une fois, à confirmer, notamment contre les Pays-Bas, mais tout ça part d'un, j'ai pas envie de dire d'un bon sentiment, mais de là d'où on vient, c'est quand même important pour la National Manchester de remporter ce genre de rencontre, pardon.
Et ce match face aux Pays-Bas, ce sera demain, demain, ouais. Il y aura le match également entre la France et le Chili. On est à quelques semaines de l'Euro, hein. On vous a demandé, cher drôle de dame, vos avis, vos souhaits pour l'Euro pendant cette trêve internationale. L'Angleterre, finaliste de la dernière édition, vient de perdre en amical face au Brésil. Julien, on t'a demandé ton souhait, ton avis. Quelque chose me dit que ça porte sur ton pote Gareth Southgate.
Non, mais moi je lui souhaite le meilleur, vraiment. C'est fini après, c'est fini. Son contrat expire en décembre 2024 déjà. Il est déjà. On en parle beaucoup du côté de Manchester United parce que Sir Jim Ratcliffe et Sir Dave Braceford sont des grands fans de Gareth Southgate. Donc ça s'arrêtera. C'est la dernière compétition. Il est passé très près contre l'Italie, assez proche à la Coupe du Monde 2018. Moi, j'ai envie que les Anglais gagnent. C'est pas soit les Français ou les Anglais qui gagnent, ça m'arrangerait bien. Donc, je lui souhaite le meilleur, vraiment. Je préférais qu'il soit pas là, mais il est là. Et il sera encore là à l'Euro. Donc, malheureusement, à ce niveau-là, je peux rien faire. Et on a encore vu d'ailleurs ses limites et tactiques et dans la gestion d'une rencontre contre le Brésil samedi soir à Wembley. La première défaite à Wembley depuis 21 matchs pour les Anglais qui, sincèrement, auraient dû perdre 3-0 et pas 1-0 simplement. Donc voilà, il sera là quoi qu'il arrive. Je préférais plutôt, je sais qu'il écoute l'émission, Gareth.
Bien sûr, on
bien sûr, avec son français, il est complètement bilingue. Je préférais qu'il se concentre plutôt sur la liste qu'il va appeler, les 23 joueurs, et encore plus sur les 11 qui devraient débuter l'Euro, ou en tout cas qui joueront les matchs les plus importants. Donc par exemple, je ne veux pas avoir d'Harry Maguire dans cette équipe. Pour moi, c'est plus possible maintenant. On a encore vu les erreurs contre le Brésil, notamment celle face à Rafinha, dont Rafinha n'a pas pu profiter. Je veux pas voir Jordan Henderson non plus. Et ceux qui pourraient me dire l'argument, oui, mais c'est des joueurs expérimentés qui sont là depuis longtemps. Peut-être, mais j'en ai rien à faire. Tu gagnes pas une compétition. La plupart de ces joueurs-là qui jouent dans cette sélection-là sont expérimentés. Puis ils sont peut-être pas aussi âgés que Maguire et Henderson, mais ils sont très expérimentés aussi. Je préférais largement avoir un Jude Bellingham qui a certes que 20 ans, donc 13 ans de moins que Jordan Henderson, que le Jordan Henderson que je vois actuellement à l'Ajax, que Johan voit aussi toutes les semaines, et qui pour l'instant en tout cas ne sert pas à grand chose dans cette équipe de l'Ajax. Après oui, qu'il soit là sur le banc, dans la vie du groupe, etc., peut-être, mais en tout cas chez les titulaires, je veux pas non plus d'Harry Maguire. Après, j'aimerais par exemple qu'un Kobbie Mainoo, qui est la révélation de la saison en Premier League, qui fait des très très belles choses à Manchester United, même s'il n'a que 18 ans, il aurait déjà dû jouer contre le titulaire contre le Brésil. Il aurait déjà dû être appelé dans le groupe dans le groupe initial de cette équipe d'Angleterre pour ces deux matchs amicaux là, alors qu'à la base il était avec les U21 et Southgate s'est dit à un moment, oulala, en fait j'ai fait une erreur et tout le monde est en train de me tacler là-dessus, je vais le rappeler, il va venir avec moi, on va le faire jouer chez les grands. Mainoo aurait dû être titulaire contre le Brésil, il devrait être titulaire selon moi à l'Euro aussi, avec Rice, avec Bellingham, avec un Phil Foden aussi, mais qu'il faut pas faire jouer sur un côté sans qu'il puisse prendre part au jeu comme il devrait le faire. Je l'ai répété hier, je l'ai dit aussi samedi dans les émissions sur RMC, le fait que Phil Foden n'ait touché aucun ballon dans la surface brésilienne samedi soir est une aberration, c'est ridicule et ça montre encore l'incompétence du Sylvain Ripoll anglais, mais c'est pas grave, et encore une fois il est là, il va rester jusqu'à l'Euro.
Julien, t'es quand même finaliste du dernier Euro, tu fais partie des favoris là, on va peut-être le juger sur ce qu'il va faire là, non? Ou pour toi c'est vraiment mort pour Southgate?
Non, mais moi je pense qu'il peut gagner, bien sûr ils peuvent gagner, il faudra que lui change un petit peu sa façon d'entraîner cette équipe, ses choix, qu'il soit sûrement plus courageux à certains moments, qu'il soit surtout meilleur tactiquement. Moi, tout ce que je souhaite, c'est qu'il ait appris des erreurs du passé, qu'il ait appris de ce qui s'est passé contre les Bleus au Qatar, qu'il ait appris de la défaite, certes au tir au but, mais défaite quand même contre les Italiens alors qu'ils menaient au score chez eux à Wembley dans leur Euro. Qu'il ait appris aussi de la demi-finale perdue en 2018. Moi, j'ai envie qu'il ait appris de tout ça. Et la seule façon pour voir s'il a appris de ces erreurs-là, c'est ce qui va se passer à l'Euro. Ils ont un groupe très abordable pour eux qui va leur permettre de monter en puissance au fur et à mesure des trois matchs de poule.
Slovénie, Danemark, Serbie, hein, je rappelle.
Voilà, exactement. Donc, je suis désolé, mais c'est cadeau. Hein. Franchement, c'est cadeau. Ils vont régaler. Mais comme ils ont régalé aussi à la Coupe du Monde, hein, c'était un groupe facile. Ils sont sortis, on les voyait très beaux. Même moi aussi. Rappelez-vous, dans les studios long de la corniche au Qatar, à Doha. Et pourtant, ça s'est arrêté très tôt contre les Bleus parce qu'ils n'avaient pas ils n'avaient pas cette mentalité de vainqueur. Ils n'avaient pas cette rage d'aller chercher une victoire. Et on a vu tout de suite que de toute façon, ils n'étaient pas, même s'ils ont fait un bon match, ils n'étaient pas encore au niveau pour battre une équipe comme l'équipe de France. Là, j'espère qu'ils ont tous appris tout ça, surtout Southgate, mais aussi les joueurs, et qu'on verra une très belle équipe d'Angleterre. Mais pour moi, Maguire, Henderson, ça ne peut plus être dans l'équipe titulaire. Ça, c'est sûr. Ça doit sortir de ces 11 titulaires.
En revanche, il y a un titulaire pour lequel tu t'inquiètes, toi, Fredon.
Alors, c'est pas moi. Bah, aussi, je m'inquiète un petit peu parce que je l'aime bien. Mais du côté du Real, on s'inquiète de la dureté des adversaires, nos Brésiliens. Sur le jeu de Bellingham. Alors, je ne sais pas si en Angleterre on en a parlé de ça, parce qu'on a estimé, parce que bien entendu maintenant l'Angleterre est extrêmement suivie à cause de Jude Bellingham, comme la France et le PSG à cause de Kylian Mbappé, et on a l'impression que le Jude Bellingham devient une cible pour les adversaires. Donc du côté du Real, on s'inquiète de voir ça. Voilà. Est-ce que ça s'est dit en Angleterre? Au moins, est-ce que ça s'est vu?
Tout le monde là, si tu regardais le match, ils ont fait 19 fautes, les Brésiliens. Paqueta, lui tout seul en première période, je crois qu'il en a 8 ou 7. Il prend un carton jaune à la 40e ou 42e alors qu'il aurait dû être averti dès la 10e minute. Pas forcément par la. C'était pas des fautes, des grosses fautes très sérieuses, trop agressives, etc. C'est juste le nombre de fautes qu'il fait, et surtout sur Bellingham.
Il a 5 fautes clairement, oui.
Donc après, quand tu joues en plus contre João Gomes, qui est quand même pas un très bon joueur, hein, qui fait une très belle saison à Wolverhampton, mais qui n'est pas un enfant de cœur non plus, après c'est compliqué. Donc surtout quand tu le fais jouer dans une position, en fait, plus tu le fais jouer haut, et plus il prendra des coups. C'est aussi simple que ça. Oui. De toute façon, c'est tout à fait logique. Et plus tu le feras jouer peut-être un petit peu plus bas, et plus il aura déjà, un, le jeu face à lui, et deux, il aura affaire dans sa zone à des joueurs qui seront sûrement moins agressifs qu'un João Gomes, par exemple, voire même qu'un Paqueta. Mais Paqueta, c'est pas un joueur agressif, mais Paqueta, il aime quand même, il va au contact, il va au duel. C'est un joueur qui aime ça beaucoup plus qu'un Bruno Guimarães, par exemple. Donc, oui, c'est vrai que les Anglais en ont pas mal parlé. Lui, d'ailleurs, c'est beaucoup plaint à l'arbitre. Ah, c'est un match amical, mon Fredo. Je pense que dans un vrai match, Paqueta, il prend un rouge au bout de la 30e minute. Ouais. Enfin, tu vois, il prend un jaune après 10 minutes, il fait pas les 4 ou 5 autres fautes qu'il fait en première période à la suite. Mais oui, c'est vrai que. Mais t'as raison, mais même en championnat, je le vois aussi.
Ça commence, hein. On le voit tellement aussi, que.
En tout cas, Juju, sache que sur le chat de la chaîne YouTube de l'After, beaucoup te trouvent très dur avec Southgate. Johan, très vite, vas-y, tu te.
Non, ouais, pour Julien, je voulais lui demander ce qu'il avait pensé de l'équipe du Brésil. Parce que moi, j'ai vu une partie du match et franchement, il n'y a pas plus équipe européenne maintenant.
Ah bah, ça fait quelques années, même, j'ai envie de te dire déjà.
C'est extrêmement décevant, hein. Mais c'est même de pire en pire, je trouve.
Je suis assez d'accord.
Et j'étais assez déçu de la globalité du match, même s'il y a eu des occasions et que c'est assez divertissant. Regarder, mais j'ai pas été impressionné par le niveau des deux équipes.
Non, mais après, juste pour finir, je te trouve un peu dur avec le Brésil. Ils ont beaucoup d'absents, ils ont une défense qui ressemblait à rien. Bruno, il a rien à faire là, par exemple. Wendel, c'est un bon latéral, mais dans le sens où ils n'avaient jamais joué ensemble, Beraldo a plutôt été bon. Après, quand t'as Bruno et Paqueta dans ton équipe au milieu de terrain, ça fait quand même beaucoup de bien, parce que c'est quand même assez incroyable de les voir contrôler le ballon avec la semelle, comme ton ami Deserbi a dû kiffer, pour reprendre l'expression de Polo. moi, elle me plaît quand même dans sa transition offensive et dans les, on va dire, à partir du moment où ça traverse le milieu de terrain. Après, oui, c'est vrai qu'il y a encore des lacunes, notamment dans la construction du jeu, mais pour une première pour Dorival Junior, j'ai trouvé que c'était pas trop mal.
Allez, dans un instant, le souhait de Johan Crochet pour l'Italie, pour l'Euro. Venez poser vos questions aux drôles de dames, hein, comme chaque lundi d'ailleurs, sur RMC. On vous attend au 32-16. Max est là, tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Villas.
20h18, vous êtes sur RMC comme chaque lundi avec les drôles de dames. Voilà, comme chaque lundi, vous venez poser vos questions aux drôles de dames, 32-16. Les souhaits de nos drôles de dames pour l'Euro. Place au tenant du titre, l'Italien Johan Crochet. C'est quoi ton souhait pour la nationale et pour l'Euro, Johan?
Bah, les deux matchs amicaux qu'on a eu aux États-Unis, une très belle tournée financière qui a bien marché pour le business et aussi pour toute la diaspora italienne présente aux États-Unis, puisqu'ils avaient choisi en plus Miami et New York, qui sont deux des plus grosses communautés italiennes aux États-Unis, ce qui a donné lieu d'ailleurs à des très belles images et des très belles rencontres entre supporters et joueurs. Il y a eu surtout beaucoup de tests de la part de Luciano Spalletti, notamment de tests de joueurs déjà et de tests de schéma, parce qu'on sait que depuis quelque temps, il a envie de travailler sur une défense à 3, 3-4-2-1, parce que beaucoup de joueurs en club évolue dans ce système-là, premièrement. Deuxièmement, parce que ça pourrait combler certaines lacunes sur le plan offensif, et notamment le fait que sur les ailiers, Berardi blessé, Insigne n'est plus là.
C'est quand même le gros problème de l'Italie, hein, depuis quelques temps, non?
Ouais, parce que tout le monde parle de l'avant-centre, mais moi je trouve que sur les côtés, c'est le désert, quoi. Mais vraiment, hein, donc si aujourd'hui vous parlez d'un 4-3-3, en gros, à gauche, tu peux estimer que c'est Zakaï et El Shaarawy, les deux plus probables, et à droite ça serait Chiesa et Zaniolo. Je mets Chiesa à droite parce que vraiment à droite, ouais, sinon c'est que Zaniolo et c'est compliqué. Donc on est quand même assez loin d'un très très haut niveau, et donc ce 3-4-2-1 permettrait d'avoir des joueurs plus dans l'axe, et comme il y a beaucoup de milieux de terrain en Italie, c'est sans doute le seul secteur où ils sont plutôt bien, ça permet aussi de densifier, de mettre plus de talent à ce niveau-là. Et donc dans les expérimentations ou dans les choix qui ont été faits, j'ai un je veux et un je veux pas. Dans le je veux à l'Euro, c'est Lorenzo Pellegrini, parce que justement dans cette abondance de milieux de terrain, il y en a pas beaucoup qui ont sa qualité technique, sa vision du jeu et sa créativité. C'est pas un créatif à la un joueur très dribbleur, etc., qui va percuter, etc. C'est plus un passeur qui sur un pas va faire une petite balle lobée par-dessus la défense, ou qui va trouver l'intervalle entre le latéral et le défenseur central, qui va vraiment offrir des ballons de but à ses attaquants, et notamment hier, hier, le match contre l'Équateur,
ouais.
Il met un petit ballon lobé pour Raspadori, il est exceptionnel ce ballon, il n'y a que lui qui est capable de faire ça. En plus, dans les avantages, tireur de coup de pied arrêté, le meilleur, donc c'est très important, direct ou indirect, d'ailleurs corner ou coup franc direct, il a marqué plusieurs coups francs directs également, capacité à tirer de loin. D'ailleurs, le but qu'il met contre l'Équateur, c'est une frappe du gauche extrêmement puissante. Mais la Roma a sorti il n'y a pas longtemps les 50 buts de Pellegrini sous le maillot de la Roma. Il y a beaucoup de frappes de l'extérieur de la surface, pied droit, pied gauche. Et ça, c'est important. Dernier élément qui peut être aussi important, c'est sa polyvalence. Parce que Spalletti a travaillé sur le 3-4-2-1. Mais on a aussi, comme le 4-3-3, la deuxième partie du match contre le Venezuela, qui était le premier match amical de cette tournée américaine, il l'a fini en 4-3-3. Et Pellegrini peut jouer 10 derrière l'attaquant, le fameux trequartista en Italie, ou il peut jouer relayeur dans un milieu à 3. Donc c'est aussi un joueur qui peut convenir aux deux systèmes qui sont travaillés par Spalletti. Donc ça, c'est le côté je veux, parce que c'est un joueur, il n'y a qu'un profil comme ça en Italie, et on en a besoin parce que sinon ça manque de talent, de classe, tout simplement.
Et qu'est-ce que tu veux pas alors?
Je veux pas, c'est Zaniolo, parce que c'est trop compliqué, parce que Julien pourrait en parler, hein, sa saison à Aston Villa, c'est très compliqué, parce qu'il marque très peu, il fait jamais de passes décisives, parce qu'il dribble très peu, il réussit très peu de dribbles, parce qu'en plus, le QI football est quand même pas le plus élevé, clairement pas, en dehors des terrains, c'est pas le saumon le plus oxygéné de la rivière non plus, donc c'est...
J'adore cette expression.
C'est un peu compliqué, tu sais jamais trop à quoi t'attendre avec lui, il râle tout le temps, il fait beaucoup de fautes, quand il estime qu'il y a faute sur lui, il s'arrête tout de suite de jouer,
où il tombe à terre. Enfin, c'est vraiment pas un... Il a jamais progressé. Alors, il a eu deux grosses blessures. Il faut faire attention, évidemment, à ça. Hein, mais au niveau personnalité, caractère, etc., il a jamais fait le step qui aurait dû lui permettre de s'imposer dans cette équipe-là par rapport à tous ses débuts avec la Roma où il était assez extraordinaire. Et je veux pas non plus de... qui a été très décevant sur le match contre le Venezuela, Buongiorno, le défenseur du Torino. Alors, comme par hasard, donc défenseur du Torino. Torino appartient à Urbano Cairo, le président du Torino, propriétaire, qui possède donc la Gazzetta dello Sport.
Alors ça, c'est ouf, ça. Ça, c'est quand même dingue. Le mec, il est président du Toro et il est proprio de la Gazzetta.
Proprio du RCS Group. Et donc de la Gazzetta
majoritaire de la Gazzetta,
la Gazzetta ouais. De sport. Il y avait d'ailleurs à l'époque, je ne sais pas s'il y est toujours de Marca, non,
c'est Marca, ah bah ou c'est, bah c'est toujours Marca, Marca.
Toujours.
C'est toujours Marca,
ouais, voilà,
de, y a Marca et El Mundo, c'est-à-dire le El Mundo, pas le Mundo Deportivo,
le quotidien,
El Mundo, le quotidien, la formation générale qui est le deuxième du pays, Marca qui est deuxième, enfin ça dépend des régions, enfin bref, c'est avec AS l'un des deux plus grands, et c'est tu as raison. Alors ce qui est dingue, c'est que Marca en Espagne, alors que AS avait pris position en faveur de la Super League parce que le Real est en faveur de la Super League, Marca était bien emmerdé parce que comme le président du Torino était contre la Super League, ah oui. Marca, qui naturellement aurait dû être en faveur de la Super League, ne pouvait pas à cause de son propriétaire.
D'accord. Ouais, c'est marrant.
Et donc la Gazzetta dello Sport a beaucoup travaillé, s'est creusé les méninges pour trouver des joueurs moins bons que Buongiorno sur le premier match, parce que ça ne faisait pas de mettre
Buongiorno sur les notes et tout.
Ouais. Ah, ça ne faisait pas de mettre Buongiorno comme pire joueur du match, alors qu'il s'est fait laver par les attaquants vénézuéliens pendant tout le match.
C'est ouf.
Il a été pas bon, et c'est une vraie question parce qu'il y a le cas à Cherby dont on a parlé la semaine dernière, accusé de racisme par Juan Jesus. S'il prend des matchs de suspension, il y a très peu de chances que Spalletti le convoque pour des raisons éthiques, et donc ça fait un joueur de moins dans ce secteur-là, et c'est un joueur clé à Cherby. Donc Buongiorno peut avoir une place dans ce groupe-là, mais moi, entre Buongiorno et Calafiori, le défenseur de Bologne, tous les jours je vais sur Calafiori. J'étais un peu déçu d'ailleurs qu'il soit pas appelé. Donc voilà les jeux, et je veux pas pour l'Euro.
Et juste une question quand même, parce que c'est un peu le paradoxe. Tout à l'heure on se marrait là-dessus avec Fredo, mais l'Italie a raté les deux dernières Coupes du Monde. Ils ont remporté l'Euro entre les deux Coupes du Monde. C'est quoi l'objectif de l'Italie pour l'Euro alors?
Ils sont dans la poule la plus difficile,
ouais,
avec l'Espagne, la Croatie et l'Albanie. Le seul avantage que tu peux avoir, entre guillemets, c'est que tu commences par l'Albanie. Attention, c'est une très belle équipe hein, maintenant, l'Albanie, qui a beaucoup progressé. Mais...
Enfin, avantage, oui, non, ça veut dire que tu dois marquer des points d'entrée, quoi.
Oui, mais si tu bats l'Albanie en premier, t'as beaucoup moins de pression derrière. Mais... Et comme il y a les quatre meilleurs troisièmes qui passent.
Il y a les meilleurs troisièmes qui passent. Ouais.
Tu sais qu'avec un match nul contre la Croatie ou l'Espagne, normalement, t'es dans les meilleurs troisièmes. Donc ça peut passer. Mais t'as forcément pas d'énormes ambitions. Mais je rappelle que l'ambition au dernier Euro, c'était pas de remporter. Hein.
Ouais.
C'était déjà de passer la phase de groupe, 8e quart, on voit comment ça se goupille, le tirage au sort, etc. Donc on sera à peu près sur le même concept, parce que finalement, t'as pas du tout réussi à capitaliser sur l'Euro 2021, puisque tu n'es pas allé au Mondial qui suivait 18 mois après.
Elle fait flipper les Espagnols, l'Italie ou pas?
Ah bah c'est le groupe.
Oui, généralement, mais pas forcément l'Italie plus que ça.
Quoi. Non, mais non, parce que l'Italie est toujours respectée en Espagne.
Ouais.
C'est culturel. Franchement, je pense qu'en Italie, l'Espagne, vraiment, personne ne va prendre l'Italie.
Mais l'Italie ne peut pas faire flipper aujourd'hui. Enfin, je veux dire, elle n'a pas le matériel pour faire flipper.
Mais comme
elle ne
s'est pas flippée quand ils ont gagné l'Euro.
Ne pas faire flipper, ça ne veut pas dire ne pas être performant.
Oui, et puis ne pas respecter.
Oui, non, c'est pour ça. Il n'y aura pas de dédain des Espagnols. Et puis la Croatie, ça fait peur aussi.
Pas moche, moi aussi. Alors, tu voulais rendre hommage à un président qui a marqué le foot espagnol et dont on a appris le décès hier.
Alors, vous savez, moi, tous les week-ends, je pense à la musique que je vais mettre le lundi.
Ah oui.
Et je me suis rendu.
C'est dommage que tu ne penses pas aux chroniques aussi. Mais
Ah bah écoute, je ne peux pas tout faire. Hein, Et je me suis dit, c'est fou. Ça fait deux ans maintenant, deux saisons que nous faisons la musique, et je n'ai jamais mis le plus grand chanteur portoricainien de. Voilà, en musique, Roger Feliciano, avec une chanson absolument merveilleuse qui s'appelle La Copa Rota. Donc voilà.
Qui veut dire
C'est le verre brisé.
D'accord.
Mais la Copa, c'est aussi la coupe.
D'accord.
La coupe. Et Manuel Ruiz de l'Opera, qui vient de mourir, le président du Betis, sa grandeur de gloire, c'est la coupe d'Espagne. Vous savez, le foot, c'est surtout dans les pays qui aiment vraiment le foot, où le foot est la folie, les présidents sont parfois plus importants que les joueurs.
Ouais.
Et Manuel Ruiz de l'Opera, franchement, on a beaucoup parlé depuis l'annonce de son décès, et chacun s'est souvenu des anecdotes. C'était un monsieur extrêmement truculent. Quand il racontait les histoires qu'il avait avec les joueurs.
C'est années 90-2000, hein,
pour vous restituer les plus jeunes. Exactement. Alors, c'est un monsieur qui aimait bien, qui s'aimait bien aussi. Il avait quand même. Alors, il était propriétaire du club, mais les sociaux sont votés que le nom de.
Ça, c'est fou, ça. Le mec à l'époque avait dit. Je veux marquer l'histoire du club. Il a fait voter aux sociaux sur le changement de nom du stade.
Les actions, c'était les actions au conseil d'administration, sauf que les actions, c'était à lui. Donc, ils ont changé de nom. Il dit, moi, j'ai rien voulu. Hein, Donc, pendant plusieurs années, le stade s'est appelé et Manuel Ruiz de l'Opera. Et après, il est redevenu Benito Villamarín, quoi, tu vois. Donc, c'est bon. Mais c'est quelqu'un qu'on aimait bien parce que. Alors, il y a des anecdotes, elles sont extraordinaires. Il y avait un joueur qui s'appelait Benjamin. Benjamin, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 2000, 90-2000, qui est un joueur hispano, à moitié espagnol et d'origine aussi. De Guinée équatoriale, qui était un type qui aimait bien faire la fête. Et c'était Halloween 2001. Le président, qui aimait bien contrôler les joueurs, apprend qu'il y a une fête d'Halloween organisée chez Benjamin. Donc il va voir Juan de Ramos, vous vous souvenez de l'entraîneur, il dit
bien sûr.
On y va. Et après, le plus drôle, c'est comment il raconte ça à la radio deux jours après. Alors je peux pas faire l'accent andalou, mais en plus avec l'accent andalou, c'est excellent. Il dit voilà, j'entre. Et là, je vois qu'il y a quand même beaucoup de jeunes filles en train de faire des activités physiques pas très non mais il te raconte ça à la radio et tout et là les joueurs commencent à halluciner t'en as certains
parce qu'il est pas invité
il n'est pas invité et puis en plus ils vont faire des fêtes comme ça en pleine nuit alors que des joueurs professionnels certains joueurs passaient par les fenêtres par le balcon pour pas se faire choper et le mec il raconte ça dans le Larguero la grande émission de radio deux jours après quoi enfin c'est des trucs comme ça c'est aussi celui qui est en guerre absolue contre Séville qui déteste le président de Séville, tu vois, c'est vraiment un moment de forte tension.
Et qui était Del Nido à l'époque déjà.
C'était Del Nido et il y a la mort d'Antonio Puerta. Ah et oui. Là, il y a parce qu'en Espagne, vous savez, la veillée funéraire, c'est on enterre les gens le lendemain, donc c'est à partir de la mort. Il y a toute la nuit, on veille les morts et le lendemain, il y a l'enterrement. Et en fait, la veillée funéraire se fait avec plein de public au Sanchez-Pizjuan. Et là, contre toute attente, arrive l'opéra, l'entraîneur et tous les joueurs. Venir le corps et rendre hommage. Donc voilà, il y a plein d'images dont on se souvient quand on parle de Manuel Ruiz de l'Opera.
Il y a une chose plus terre à terre aussi, mais pour moi, surtout ce président, c'est Danielson en 98, record le plus cher de l'histoire à l'époque.
Exactement. Et
les 212
flop,
millions de francs.
Qui est un flop.
Et qui est un flop. Joueur, quand même.
Oui, parce que c'était trop cher pour le Betis. D'ailleurs, après, il y a eu plein de problèmes de fric. Le Betis est redescendu en deuxième division. Voilà, le Betis, je crois que c'est sous sa présidence que le Betis joue. Oui, c'est bien ça. Joue la Ligue des Champions, mais. C'était trop gros pour eux et ils descendent en deuxième division la saison suivante. Donc voilà. Alors, c'était pas toujours un modèle, mais il fait partie de ces présidents qui marquent une histoire dans un pays qui adore le foot comme Espagne.
C'est l'alerte, c'est le moment de vous inscrire pour ouvrir le coffre RMC. Si vous voulez tenter de gagner 50 000 euros grâce au coffre RMC, vous envoyez à partir de maintenant coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. L'un ou l'une d'entre vous sera avec nous vendredi 29 dans l'émission pour ouvrir le coffre RMC et peut-être remporter la somme de 50 000 euros. Bonne chance à vous. Suite des avis, des souhaits de nos drôles de dames pour l'euro. Vous allez voir que Polo rêve d'un autre euro pour nous, pour vous, pour nos enfants. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Villas.
20h34, vous êtes sur RMC. Merci d'être avec nous, avec nos drôles de dames. Yoann Crochet, Fred Hermel, Julien Laurence, Polo Breitner. Le 32-16 vous attend. Max et là, venez poser vos questions comme chaque lundi aux drôles de dames. On est en pleine trêve internationale. On en profite pour demander à nos drôles de dames ce qu'elles souhaitent pour l'euro. Un euro qui se jouera en Allemagne du 14 juin au 14 juillet prochain, qui sera à suivre en intégralité sur RMC avec notamment nos drôles de dames. Un euro qui, depuis 2016, réunit 24 nations en phase finale. Alors, une formule élargie. Je le sais, mon Polo, qui ne te plaît pas des masses. Et tu voulais lancer un débat, poser une question à notre drôle de dame. Quel euro souhaitons-nous? Vas-y, explique-nous ça, mon Polo.
Si tu veux, moi, je suis né dans les années 70. Je me rappelle à un moment, je m'excuse de raconter la vie de mon père et de moi. J'étais tout gamin, je devais encore manger de la soupe. Et on avait une vieille radio. Et à l'époque, on entendait les tirages à la radio. Et mon père s'énervait, disait surtout pas les Diables Rouges. Les Diables Rouges, je savais pas que c'était la Belgique à l'époque, j'étais trop petit. Et pendant des années, d'ailleurs, j'ai cauchemardé parce que j'ai pensé qu'il y avait des petits diables, des diablotins qui sortaient de la radio.
Et, c'est bon ça.
Mais c'est vrai en plus. Mais si tu veux, c'était juste pour se qualifier pour un potentiel euro. En 1980, il y avait que 4 équipes, il y avait des barrages avant, par exemple, des choses comme ça. Aujourd'hui, on est à 24, donc on est dans le gigantisme actuel, etc. En plus, ça avait rajouté à la société du divertissement. Et on se retrouve à l'Euro avec un groupe où il y a par exemple la Belgique, la Slovaquie, la Roumanie, et puis un barrage avec l'Islande et l'Ukraine. C'est assez fabuleux, ça me fait kiffer, pour employer ton terme, et je trouve ça, j'attends ce groupe avec impatience, tu vois. En 2016, lors de ce premier Euro, j'avais le Portugal, et puis j'avais l'Autriche, j'avais l'Hongrie, et puis j'avais l'Islande aussi, donc c'était passionnant, évidemment, le niveau sur le terrain était fabuleux. Et en fait, l'histoire de l'Euro, c'était considéré comme la compétition la plus dure du monde. D'ailleurs, on disait, la Coupe du Monde, qu'est-ce que c'est qu'une Coupe du Monde? C'est l'Europe plus le Brésil et l'Argentine. Mmh. Aujourd'hui, on a tué complètement les qualifications, c'est-à-dire que pour les grandes nations, c'est une caisse enregistreuse. On invite quasiment tout le monde à cet Euro. Moi, je me rappelle encore à l'Euro 2016, ce qui était le plus passionnant, c'était les reportages des journalistes sur le clapping islandais. Super intéressant, en fait.
Ils aiment pas les Islandais, j'ai l'impression. Hein.
Non, mais on en est arrivé là, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on parle même plus de football. Donc, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je dis que le sport, on en parle de moins en moins. Que toutes les grosses nations doivent être à l'Euro, évidemment. Elles n'ont plus le droit de se planter. D'ailleurs, on les récupère de toute façon. Un petit peu comme si Djokovic jouait Roland Garros, il perd au premier tour. Puis attends, mon gars, on t'a offert une petite fenêtre pour que tu puisses venir. Donc, et finalement, on se retrouve.
D'ailleurs, attends, je te coupe deux secondes. Juste, je fais une parenthèse là-dessus. Je reprends d'ailleurs les propos, puisque tu parles de ça. On pourrait presque ouvrir le débat sur les troisièmes de groupe de Ligue des Champions qui sont reversés en Europa League. C'est-à-dire, les perdants peuvent gagner, quoi.
Mais c'est pour une raison très simple. C'est que plus il y a de pays qui restent, plus il y a de droits télé qui sont vendus. Ouais, donc plus d'argent pour l'UEFA et l'UFA.
Surtout les gros pays. Hein.
Et surtout les gros pays. Bah,
le Mondial 2022, ils n'étaient pas contents qu'il n'y ait pas l'Italie.
Ah bah tu m'étonnes.
Vas-y Polo.
Je finis juste là-dessus, parce que l'année dernière, j'avais discuté avec un responsable de l'UEFA de ces questions-là. J'en disais, mais c'est débile. Bon, évidemment, il me faisait comprendre le marché est comme ça et comme ça. À force de créer des générations de gens qui ne réfléchissent pas beaucoup, qui n'ont pas de culture historique sur ce qu'était le football et ce qu'il est aujourd'hui, voilà où on en arrive. Moi, j'ai pas de problème à ce que l'Islande soit un euro. Mais si tu veux, pour reprendre l'exemple de l'Euro 2016, j'ai aucun souci avec l'histoire du Portugal, qui est c'est une nation que j'aime beaucoup au football, plus que les Pays-Bas d'ailleurs, et qui est toujours derrière dans la médiatisation, alors que pour moi elle est devant. Mais si tu veux, ce qui m'intéresse, c'est pas d'avoir un groupe où j'ai Portugal, Autriche, Hongrie et puis l'Islande. Moi, c'est pas que je veux pas et l'Autriche et la Hongrie et l'Islande, je veux ou l'Autriche ou la Hongrie ou l'Islande, c'est pas la même chose. Et on se retrouve avec des matchs qui sont souvent extrêmement moyens, d'ailleurs les derniers euros n'étaient pas extraordinaires. On refuse que des grosses nations tombent pendant les qualifications. Et je pense qu'on a le droit de réfléchir sur le produit de la qualification. Et je le dis aujourd'hui, pour les grosses nations, ce ne sont que des caisses enregistreuses. C'est tout. Il faut essayer de trouver une autre façon. Tu vois, j'ai même pas envie de penser à l'Afrique qui a des qualifications tellement difficiles. Et à la rigueur, c'est plus difficile de se qualifier que de gagner le tournoi final. Alors qu'en Europe, franchement, les qualifications n'existent plus. Moi, je suis pas un grand fan de la Nations League, de la Ligue des Nations, pardon. Il y a au moins quelque chose qui est intéressant, c'est quand tu vois sur plusieurs générations cette compétition, tu vois le classement européen en fait. Tu as comme un classement européen des grandes nations.
Oui, t'as des divisions en fonction des niveaux.
Exactement. Ouais. Sauf que depuis 40 ans, on nous explique qu'Andorre doit jouer absolument contre l'Allemagne, que San Marin doit jouer contre la France, et puis une fois tous les 50 ans, San Marin va faire un nul ou gagner un match, et là on dit vous voyez que c'est formuleux. En fait, il y a rien. En 40 ans, ils ont pas évolué. Prennent toujours 5, 6, 7, 8, 0. Donc toutes ces réflexions-là, si tu veux, font que cet euro, pour moi, est trop grand et que ce n'est pas si important. Pour moi, un euro, et on peut revenir à les victoires de l'équipe de France en 84, le premier que j'ai vraiment suivi, parce que j'ai des souvenirs de 80, mais c'est différent. Si tu veux, quand l'Espagne élimine, en plus à deux points, l'Allemagne à la 89e minute, ça voulait dire quelque chose. Quand on disait la France était le favori avec le Danemark, ça voulait dire quelque chose. Aujourd'hui, on va attendre les huitièmes, voire les quarts, parce qu'il y en a bien des gros qui vont finir troisième et donc aura un tirage un peu spécial, pour essayer de voir des matchs qu'on estime. Mais moi, c'est ça, l'euro. C'est pas la porte ouverte à toutes les nations.
Tiens, juste un truc. Je rappelle juste qu'il y avait même l'idée de la part de l'UEFA de faire un euro en 2028 à 32 équipes. Ça a été écarté pour des raisons économiques. Ce qui aurait voulu dire que sur 55 nations inscrites, il y aurait eu 32 nations qualifiées pour la phase finale.
Ouais, l'aberration, c'est pas juste en Europe. Hein. La prochaine Coupe du Monde
à 48 équipes, ouais.
Il y a combien de nations sud-américaines sur combien qui vont être qualifiées?
Ouais, ça, c'est complètement dingue. Ouais, t'as raison.
C'est hallucinant.
Ouais, c'est fou.
Mais alors, en fait, ça doit être générationnel, parce que moi je suis né en 70 comme Polo. Moi je me souviens très bien qu'on disait toujours qu'il était plus difficile pour une équipe nationale de se qualifier pour l'Euro que pour le Mondial.
Ouais.
Et dans les faits, c'était vrai parce qu'il y avait moins de place. C'est-à-dire que c'était plus facile pour le Mondial, voilà, ouais. Parce qu'il y avait plus de place pour le Mondial que pour l'Euro. Moi aussi je suis pour un Euro resserré.
parce que le continent qui donne le ton au football mondial, c'est l'Europe aujourd'hui. On est d'accord, bon, ça a toujours été, mais c'est vraiment ce qu'il y a de flagrant aujourd'hui. Tu disais tout à l'heure que le Brésil joue de plus en plus comme des Européens, c'est une évidence. Quoi. Mmh. Donc en fait, ce serait l'Europe qui devrait montrer le chemin et limiter un peu les matchs. Parce que là, on a une profusion de matchs en tout, c'est-à-dire des clubs, des nations. Il y aura le mondial des clubs qui va être créé, où la FIFA va se faire un fric dingue. C'est-à-dire que là, les équipes ont bientôt, on va devoir avoir des sélections à 40 joueurs et des clubs à 40 joueurs.
D'ailleurs,
aussi.
Il va élargir la liste. Hein,
oui, parce que c'est ouais. Ça, c'est quoi? C'est la réponse. Parce qu'ils commencent à se rendre compte que ce n'est pas possible physiquement pour les joueurs et même mentalement de jouer tous ces matchs-là. Parce qu'un euro, avec 32 nations, ça veut dire qu'il y a encore plus de matchs. Même à 26, il y a trop de matchs. Il y a trop de matchs. Donc au moins l'euro avant, il y avait un resserrement qui était plus représentatif du niveau du football européen.
Ouais, puis il y avait un autre niveau aussi. Yoann, ton avis là-dessus?
Moi, je suis globalement d'accord avec tout ça. Il y a un seul truc qui me fait un peu tiquer et j'y pense à chaque fois qu'il y a ce débat-là. C'est que l'élargissement a permis des supers histoires.
Du genre?
Du genre, l'Islande et Pays de Galles qui font l'euro. Et sans cet élargissement-là, je pense qu'ils n'y seraient jamais parvenus.
Et qui font un bel euro en plus.
Et pour ces nations-là, effectivement, nous, dans notre costume de grande nation qui va souvent à l'euro, et si une fois elle y va pas, c'est pas trop grave. Enfin, c'est un drame sur le moment, mais finalement, dans ton histoire, c'est pas si grave que ça. Et toi, tous les étés, enfin tous les deux ans, tous les quatre ans, je vais y arriver, tu fais l'euro et tu vis l'euro parce que ton pays est représenté, etc. Bah, pour ces petits pays-là, y aller une fois, c'est un vrai événement, c'est un vrai truc où le temps s'arrête. Et où tu as une sorte de bouillon d'émotion, de bouillon de joie, etc., qui monte dans un pays qui n'aurait jamais connu ça. Mais globalement, je suis d'accord sur le niveau, le nombre de matchs, qu'on a tous envie de voir Italie-Espagne, Allemagne-France, ce genre de rencontres-là. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais.
Après, c'est pas ce que dit Polo. Polo, il te dit pas qu'il veut voir Italie-Espagne. Il te dit qu'il veut bien voir l'Islande, mais il faut qu'elle mérite d'y être et qu'elle ait fait des qualifs.
Mais en soi, avec l'ancienne formule, il n'y serait jamais arrivé.
Est-ce que pour permettre à l'Islande d'aller une fois tous les 20 ans à l'euro, on est obligé de casser tout le système? Tu vois ce que je veux dire?
On est obligé d'en mettre
Non, mais il faut vraiment réfléchir au système de qualification. Si. Il y a un mec qui est un spécialiste des droits télé, des euros ou de la Coupe du Monde et te dit, mais de toute façon, on ne peut pas empêcher la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Brésil, qui tu veux, à se qualifier pour une grande compétition, pour des raisons purement financières, mais au moins on peut lancer le débat, est-ce que c'est encore du sport? Et c'est autre chose. Et ça, faut pas compter sur moi. Moi, c'est ce que je pense depuis 20 ans. Quand tu vois l'évolution du truc, Super League n'étant d'ailleurs au passage que l'arrivée de gros part du gâteau du truc. Les autres n'ont pas le droit d'exister. Mais c'est pas nouveau. Moi, je suis pas contre. Il y a des nations qui sont trop petites, entre guillemets. Ce qu'on appelle les petites nations en France, c'est toujours d'une façon péjorative, mais c'est par rapport au nombre de millions de population. Mmh. T'as des cultures. La Croatie, c'est un tout petit pays en nombre, mais ils ont une énorme culture. Donc, ils arrivent à se qualifier. Est-ce qu'ils ont vocation à être systématiquement à l'euro? Je n'en sais pas. Ils ont des grandes, des petites générations. Mais on pourrait voir ça pour la Belgique aussi. Ça marche super bien pour la Belgique depuis une dizaine d'années. Il y a eu un trou générationnel énorme pour la Belgique pendant un moment. Et ça les a pas empêchés d'être à la finaliste de l'euro 1980. Les clubs belges, dans la fin des années 70, ils étaient quasiment tous en finale et même gagné des Coupes d'Europe. Donc, c'est des choses comme ça. Mais c'est de dire, ah oui, mais bon, alors un peu d'émotion. Ah, c'est génial, le clapping islandais, le truc, là. Non, mais ça va, c'est juste le football, je voudrais juste avoir un niveau. Et vous avez posé une vraie question, je crois que c'est Fred, c'est est-ce que aujourd'hui, tout le monde, dans le monde, justement, joue à l'européenne? Et moi, c'est un problème culturel aussi. C'est-à-dire que ce qui me plaisait, c'est de voir des Suédois qui font tous 1m90 et qui sont pas forcément très bons techniques, mais ont un côté physique extraordinaire. Et de l'autre côté, j'adore voir les Japonais parce qu'ils sont, même si c'est ce que j'essentialise, ils sont un petit peu plus petits et donc techniquement, ils sont plus intéressants à voir jouer sur le terrain. Si tout le monde joue à l'européenne, mais c'est une horreur.
Juste très vite, Julien, ton avis là-dessus?
Ah, moi, je suis pas du tout d'accord. Moi, je suis très content quand il y a plus d'équipes, plus de matchs à couvrir en plus.
Parce qu'à l'oseille, c'est anglais.
Toutes les coupes du monde, voilà, moi j'aime voir des équipes qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ces championnats. Sinon, ce serait toujours les mêmes équipes. Je suis d'accord avec Johan. Ça me plaît bien que le Pays de Galles, que Gareth Bale, sinon, n'aurait jamais participé à une Coupe du Monde et à un Euro dans sa vie. Je trouve que c'est bien qu'il l'ait fait. Voilà. Moi, j'aime quand il y a beaucoup de matchs. D'accord. Peut-être qu'au niveau du niveau général, tu as perdu un petit peu. Et encore, je suis même pas persuadé. Et voilà. Moi, ça me plaît. Alors, bien sûr, il y a quand même la santé des joueurs qui est importante. Mais moi, sinon, non, je me plaindrais pas du nombre d'équipes à l'Euro ou à la Coupe du Monde.
Et ben voilà, comme ça chacun a donné son avis. Dans quelques instants, les souhaits de Fredo pour la Roja pour l'Euro, l'Espagne qui est en pleine crise niveau institutionnel notamment. Explication de Fred Hermel juste après ça sur RMC, à tout de suite.
RMC jusqu'à 22h, Génération After,
Nicolas Villas.
20h49, vous êtes sur RMC avec nos drôles de dames comme chaque lundi. On a demandé à nos drôles de dames au cours de cette semaine internationale de donner leurs souhaits, leurs avis sur leur sélection pour l'Euro. Mon Fred Hermel, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que tu souhaites pour la Roja pour l'été prochain ?
Ben, ma réflexion ne va pas être sportive, en fait. Pas purement sportive. Bien sûr que je souhaite que l'Espagne fasse quelque chose à l'Euro. Je pense que Luis de la Fuente est un sélectionneur qui, comme je l'ai déjà dit, ne pète pas plus haut que son cul. C'est-à-dire qu'il connaît ses limites personnelles, mais il connaît aussi les limites de son groupe. Parce qu'on n'est pas dans une grosse génération. Hein. Aucun, à part Rodri... Aucun joueur espagnol n'est dans le top 5 mondial. Tu prends le 11 de l'Espagne, voilà. Donc je souhaite que l'Espagne soit dans cette modestie qui lui a permis de... Cette modestie allègre qui leur a permis, par exemple, de remporter la Nations League, tu vois, la Ligue des Nations, tu vois, voilà, avec cet enthousiasme-là. Mais moi... Je souhaite que l'Espagne se calme autour du foot, quoi. Parce que là, c'est du n'importe quoi. Enfin.
Alors, il y a grosse
C'est-à-dire que là, on est. Moi, je suis professionnellement le foot espagnol depuis 31 ans. Match Real PSG de 93. Donc, ça fait 31 ans, quasiment jour pour jour, que je suis professionnellement le foot espagnol. Je n'ai jamais vu un moment de crise aussi grand. C'est-à-dire, il y a eu des crises institutionnelles. Il y a eu des crises financières, il y a eu des crises de tension, etc. Mais il n'y a jamais eu tout en même temps. Là, on va commencer par ce qu'il y a de plus récent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Fédération espagnole, la semaine dernière, la Guardia Civil, la gendarmerie, est allée à la Fédération espagnole,
perquisition,
est allée dans le domicile de six dirigeants du football espagnol, de la Fédération. Ils sont allés chez...
Pour des affaires de corruption, présumé.
Alors, je vais expliquer. Ouais. Ils sont allés chez Luis Rubiales. Bon, ils ne l'ont pas chopé parce qu'il est en République dominicaine pour ses affaires.
Depuis un mois, dit-il.
Depuis un mois. Bon, il revient le 6 avril. Il a dit qu'il reviendrait. On commence à raconter en Espagne qu'il pourrait demander la nationalité dominicaine et rester là-bas. Non, mais je veux dire, voilà l'ambiance du foot espagnol. Pour, en gros, alors il y a tellement d'histoires, mais enfin, en gros, c'est malversation autour de la vente de la Supercoupe d'Espagne avec l'entreprise de M. Piquet à l'Arabie Saoudite. Ouais. Voilà, il y a des choses pas très claires. Peut-être des petites commissions un peu bizarres. D'après les soupçons de la Guardia Civil. Et puis, maintenant que la Cartuja, le stade olympique, le stade de Séville, comme maintenant c'est le siège de la Coupe du Roi, la fédération a fait des travaux. Bon, il paraît qu'il y a des entreprises un peu bizarres du cousin, du frère, du truc comme ça, bah, qui se sont occupées. Bon, bref, ça pue quoi. Ça pue, ça sent la bonne vieille corruption, la bonne vieille malversation. Donc, à tel point que aujourd'hui, on ne sait pas quand va avoir les élections, quoi, parce que le jour, mercredi dernier, où devait être annoncée la première phase de convocation des élections à la présidence de la fédération, bon ben les flics étaient dans la fédération, donc c'est reporté pour l'instant. Donc on ne sait pas quand il y aura les élections qui sont censées faire changer tout un système. Bon, après vous avez quand même une tension autour des arbitres qui est insupportable. C'est du délire. C'est vrai qu'ils sont très mauvais. Mais il y a une tension entre les vidéos du Real Madrid, la réponse des autres contre les vidéos du Real Madrid, voilà, les erreurs incroyables, etc. Voilà. Vous avez le racisme. On en parlera tout à l'heure avec Vinicius.
Avec Vinicius, ouais.
Parce que ce racisme, je suis désolé, quand vous avez des journaux comme Super Deporte, le journal de sport Provalence, qui fait comprendre en gros que Vinicius cherche bien à ce qu'on insulte. Voilà, c'est pas bon. Quand vous avez la plupart des clubs, à part le Real, qui sont
dans un état financier terrible, qu'ils ne peuvent pas recruter. Parce que là, il a raison de serrer la vis pour éviter que les clubs disparaissent parce que les dettes sont trop grandes. Quand vous avez un président de la fédération qui s'insulte avec le président du Real et d'autres clubs parce qu'il y a Super League, et qu'en même temps celui-là il était en guerre contre le président de la Fédé qui lui-même est en guerre contre le président du Real, enfin voilà, il y a tout en même temps, il y a toujours eu des tensions dans ce pays-là, mais là on est vraiment à un moment horrible. Je vois la une de Marca jeudi, c'était la honte, quoi. Il disait nous avons honte, quoi.
Juste quand même, parce qu'on rappelle qu'en 2030 il y a une candidature Portugal, Espagne, Maroc pour l'organisation de la Coupe du Monde. Je peux dire qu'au Portugal il y a des papiers tous les jours, à se dire, est-ce que ça ne va pas porter préjudice à la candidature? Est-ce que l'Espagne ne va pas faire plomber la candidature?
Il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter.
Ils sont loin d'être irréprochables.
Il y a des stades, faire, par exemple, on avait parlé à un moment du stade, si je ne sais pas, du Sporting, de Gijón. En fait, il n'y a pas l'argent pour le stade. C'est encore fou. Et puis, il y a surtout ce projet qui inquiète beaucoup à Madrid, parce que tout le monde pensait que la finale allait être pour le Bernabéu, pour l'Espagne. La finale du Mondial 2030.
Mais ça pourrait être au Maroc finalement.
Ouais. Parce que le Maroc est en train de construire un super stade à 130 000 places, le plus grand stade du monde. Et en Espagne, on se dit oh là là. Et parce que c'est dans ces moments comme ça, dans ces moments-là, que le lobbying y compte. Mais là, il y a pas de tête. C'est un poulet sans tête, la fédération espagnole. Il y a pas de tête. Donc le Maroc, très intelligemment, est en train de pousser ses pions pour être finalement peut-être le grand pays des trois pour l'organisation de ce mondial. Quoi.
Donc tu réclames, tu veux de la sérénité.
Moi, un peu de sérénité, quoi. Et un peu de sérénité, quoi. Voilà, c'est fou que par exemple. Brahim parait avec le Maroc, donc tu as la moitié de l'Espagne qui accuse Brahim en disant t'es un traître, et puis t'as l'autre moitié qui dit Luis de la Fuente, l'entraîneur, tu fais n'importe quoi, c'est parce qu'il est du Real que tu le prends pas. Puis après je vais vous dire un truc qui est quand même, je sais bien qu'on est tous ravis de sortir du Real Barça, mais quand vous voyez le 11 de l'Espagne face à la Colombie défaite 1-0 et tout à fait logique vendredi soir, il y a, parmi les titulaires, il n'y a qu'un seul, un seul joueur du Real ou du Barça. C'est un remplaçant qui s'appelle Rossellou.
Ouais.
Donc il y a quand même, on n'est pas dans une période magnifique. Donc moi, je voudrais un peu de sérénité et qu'on revienne à la base du football.
On va t'importer un peu de sérénité en musique, Manfredo. Ça me rappelle ce que Johan Crochet écoute dans sa Twingo, ça.
Et que Eros Ramazzotti a aussi enregistré en espagnol, hein, bien sûr.
Exactement.
Alors pourquoi cette musique d'Eros Ramazzotti, la plus belle chose?
Ouais, exactement. Bah, c'était une chanson qu'il avait faite pour sa femme à l'époque, et déclaration d'amour. Et un joueur dont les supporters de la Juve sont tombés amoureux, c'est Mathias Soulé. Il y a une vraie affection pour ce joueur-là chez beaucoup de supporters de la Juve. Et le problème, c'est que il est en prêt à Frosinone. Ça se passe très bien. Il est décisif, il est bon. On en a déjà parlé dans l'émission. Avec les espoirs argentins, je ne sais pas si vous avez vu son but, mais a priori, beaucoup de gens ont dû le voir. But assez extraordinaire. Un joueur de talent, un vrai diamant pour le coup. Sauf que la Juve est en train de se dire, est-ce qu'on ne le vendrait pas pour financer notre mercato? Et ça a du mal à passer auprès des supporters, parce que comme je le disais, il y a un vrai attachement à ces jeunes-là. Il y a un vrai changement aussi chez les supporters de la Juve, et où on fait de plus en plus attention à ces choses-là, aux joueurs que tu prends, que tu fais grandir, que tu as envie d'amener en équipe première. Il y a eu toujours quelques joueurs où tu faisais ça, mais là, il y a une concentration de talent à la Juve grâce à sa seconde équipe en 3e division italienne. Et comme c'est un peu un phénomène dans tous les clubs, hein, aimer beaucoup les petites pépites, comme on les appelle, les suivre, regarder même les matchs des équipes réserves, des U19, des U17, etc. Ils se sont beaucoup attachés à lui. Et en fait, ils n'ont pas envie de le voir partir.
Ils sont saoulés, tu veux dire?
Oui, excellent. Je n'y avais pas pensé.
Ah, meilleur.
Et en plus, il y a même des anciens joueurs de la Juve, comme Takinardi, Alessio Takinardi, qui a pris position en disant mais non, il faut absolument pas que il faut absolument que la Juve le garde, sinon on risque une Coman bis, Kingsley Coman. Qu'il avait été lâché pour 28-30 millions d'euros parce que ça permettait de financer certaines arrivées à ce moment-là. Sauf que là, Soulé, on parle quand même de 40 millions d'euros à peu près, parce qu'il y a beaucoup de clubs de chez Julien Laurence, hein, comme d'habitude, où ça sent l'oseille, qui aiment bien Mathias Soulé. Et c'est en train de devenir un vrai sujet de tension entre les supporters et la direction du club, en disant c'est hors de question que vous nous vendiez Mathias Soulé. Parce qu'en plus, ils se disent, On a vu qui vous avez pris récemment en termes de recrues. Bon, on n'est pas trop impressionné non plus.
Et ben voilà, donc à suivre cet été.
C'est combien pour l'instant tu penses?
30 000.
Là, c'est 40 millions. Alors, il faut peut-être que tu vendes ton Aston Martin et rajoutes un peu au bout, mais.
Et la maison de.
Je vais voir ce que je peux faire.
Mais non, mais ça, même Bournemouth, il le prend à 40 millions, t'inquiète, hein, c'est rien pour un club anglais, ça. Dans quelques instants, nos drôles de dames vont se mettre dans la peau de Xabi Alonso. Voilà.
Ah, j'adore ça.
Si vous étiez Xabi Alonso, vous feriez quoi l'été prochain? Il est annoncé à peu près dans tous les plus gros clubs d'Europe. Il est invaincu avec le Bayer Leverkusen, surpasse d'être sacré champion, engagé sur toutes les compétitions d'ailleurs, avec le Neverkusen qui ne sera plus Never dans quelques semaines, très certainement. Voilà, venez en débattre avec nous au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC. 32 x 22, ça va faire 500. 32, non, 600. Allez, je vais perdre.
C'est la stat qui permet d'estimer la probabilité qu'un tir cadré finisse en but selon où il arrive dans le but.
Fabinho qui est moins la lance de lancement. La rampe de lancement.
J'adore.
La rampe de lancement.
Pardon, Chris. Pardon, je t'ai critiqué. Je suis nul. Il faut jamais critiquer le meilleur joueur. Sinon, on est un con. Voilà, je suis un con, Cristiano a marqué.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Villas.
Et nos drôles de dames, bien sûr, parce qu'on est lundi. Et lundi, c'est drôles de dames avec Paulo Breitner, Julien Laurence, Fred Hermel et Johan Crochet avec vous au 32-16. Venez poser vos questions à nos drôles de dames à partir de 21h45, hein, bien sûr. Pas mal de messages également sur le chat de la chaîne YouTube de l'After. YLC. YLC qui nous dit Fred est d'humeur joyeuse ce soir.
Ben, il faut expliquer. Alors je vais expliquer parce que j'avais oublié que nous étions même pendant la pub on nous voyait.
Oui.
Mais en fait c'est parce que nous parlions musique avec Johan et je lui parlais d'un chanteur italien très connu en Espagne mais a priori pas très connu en Italie qui s'appelle.
Non, moi je le connais pas. Ça se trouve il est.
Donc je lui suggérais pour sa musique la semaine prochaine. Ouais, c'est Cento Cento di Gravita
Permanente. Finalement je vais pas le mettre.
Bah, vous l'avez eu quand même.
Alors avec nos drôles de dames, on est là jusqu'à 22h, les drôles de dames qui ont donné leur avis, leur souhait concernant l'Euro. On va maintenant avec elle se mettre dans la peau de Xabi Alonso. Pourquoi? Parce que l'actuel entraîneur du Bayer Leverkusen est hyper courtisé. On rappelle, hein, il est engagé sur toutes les compètes, il a invaincu cette saison. Ça parle de Liverpool, du Bayern, du Barça, du Real Madrid, alors plutôt pour la saison prochaine. Si vous étiez Xabi Alonso, vous feriez quoi cet été? Venez nous donner votre avis avec nos drôles de dames au 32-16. Avant d'entendre votre avis, juste mon polo, j'aimerais bien faire un point sur ce qui se dit aujourd'hui concernant l'avis de Xabi Alonso. J'ai vu que Bild affirmait qu'il était la priorité du Bayern Munich.
Il est la priorité. Alors c'est très intéressant. Parce que Max Eber, vous savez qu'il est le nouveau patron du sport du Bayern, a dit qu'il n'avait pas de contact avec Xabi Alonso. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il n'a pas de contact avec son entourage. Donc ça, quand on connaît Max Eber, on sait comment ça fonctionne. Très clairement, l'espagnol est la priorité des priorités pour la saison prochaine, donc 2024-2025 pour le Bayern Munich. Mais il y a un facteur dont on oublie beaucoup, ce sont les joueurs du Bayer Leverkusen. C'est-à-dire que je suis Xabi Alonso, je suis le Bayern Munich. Si je vais chercher Florian Wirtz, par exemple, pour l'associer à Moussiala, je suis Xabi Alonso, je pense que ce n'est pas la même chose que le garder l'année prochaine. Je ne sais pas si vous avez vu ce que Grimaldo a déclaré. Il dit, moi je voudrais continuer avec le coach. Il dit, mais c'est vrai que j'ai beaucoup changé de club ces dernières années, etc. C'est pas forcément bon, etc. Mais moi, je voudrais continuer avec lui. Je sais pas s'il disait, je veux continuer avec lui au Bayer Leverkusen, ou est-ce que c'est, en cas d'un départ de l'Espagnol au Bayern, le suivre, d'autant plus que vous savez que le poste d'arrière-gauche au Bayern Munich sera sûrement un gros sujet cet été pour les transferts. Donc, la priorité... En Allemagne, en fait, on pense qu'il ne veut pas aller à Liverpool. On pense qu'il préférerait le Bayern Munich. Moi, je ne sais pas ce qu'on dit en Angleterre. En tout cas, c'est ce qu'on se dit en ce moment.
Juste toi, Polo, tu ferais quoi à sa place? Si tu étais Xabi Alonso, tu ferais quoi l'été prochain?
Moi, si on m'amène dans mon package, si on m'amène Wirtz, je pars au Bayern.
Ah, c'est pas mal ça. J'aime bien la théorie du « si je peux partir avec des mecs, j'y vais ». C'est pas mal. Tiens, juste avant d'avoir votre avis également, juste petit détour par Bonal, on va retrouver Patrick Müller. Le match de l'équipe de France olympique vient de débuter face aux États-Unis. Match de préparation pour les JO qui débutent dans 122 jours. Je vous rappelle qu'RMC est la radio officielle des JO Paris 2024. Salut Patrick.
Salut Nicolas, c'est même le dernier match hein, avant les Jeux Olympiques pour cette équipe de France Olympique qui va retrouver précisément son adversaire du soir en ouverture de son tournoi. Ce sera le 24 juillet face donc aux États-Unis, mais j'allais dire plutôt du côté de Marseille. Et quelques soucis d'effectifs hein, pour ce match avec cette blessure, vous le savez sans doute, de Bradley Barcola face à la Côte d'Ivoire et des absents de dernière minute. C'est Yoro et Mio, mais Kalimuendo est présent à la pointe de l'attaque dans ce 4-3-1-2 préférentiel de Thierry Henry, le sélectionneur, qui a arrêté et laissé tomber l'idée, pour l'instant en tout cas, du 4-3-3.
Merci Patrick, s'il se passe quelque chose, tu n'hésites pas bien entendu. Julien, je me tourne vers toi. Si t'étais Xabi Alonso, tu ferais quoi la saison prochaine? T'as entendu ce qu'a dit Polo? Apparemment en Allemagne, ouais. Il se dit qu'il ne veut pas aller à Liverpool.
Ouais, on a aussi quelques échos un petit peu similaires. Moi, ce que je voulais dire d'abord, pour commencer, c'est qu'il ne faut quand même pas oublier que Xabi Alonso n'a pas encore terminé une saison pleine comme entraîneur, et déjà il a deux des plus grands clubs du monde qui sont après lui, avec le Bayern et Liverpool. Je trouve ça juste incroyable. Le gars, il a pas fait une saison entière déjà, et c'est juste exceptionnel ce qu'il est en train de faire. Moi, si j'étais à sa place, ou si je pouvais le conseiller, Liverpool, bien sûr, sur le papier, c'est génial. C'est un club où il a passé des très belles années, bien sûr. Il aime beaucoup l'Angleterre, il parle anglais. Je pense que la Première Ligue, pour tout entraîneur, c'est aussi un rêve, parce que c'est le meilleur championnat du monde. De passer derrière Klopp, dans un sens, c'est quelque chose qui, à mon avis, doit faire très plaisir d'être le successeur de Jurgen Klopp. Mais je pense que Xabi Alonso sait aussi à quel point ce sera difficile. Pas simplement de passer derrière Klopp, parce que finalement Klopp a été là pendant 9 ans. 9 ans, c'est pas Wenger, c'est pas Ferguson, c'est pas Giroud, c'est pas voilà. C'est 9 ans, ça peut passer encore. Tu peux arriver après 9 ans et imposer tes idées plus facilement. C'est pas comme
c'est quand même beaucoup dans le foot actuel, Juju.
Ouais, mais quand même. Je pense qu'il y a un certain moment où c'est tellement ancré, un Wenger, un Ferguson, un Giroud, etc. C'est tellement ancré que tu peux pas réussir. C'est impossible quasiment. 9 ans, je pense que ça peut encore passer. En revanche, moi je lui dirais, écoute, Guardiola il est encore là. Et City est encore la meilleure équipe du monde. Elle le restera l'année prochaine et sûrement l'année d'après et jusqu'au départ de Guardiola. Après, ils auront du mal à gérer l'après Guardiola. Ça c'est sûr et certain. Mais pour l'instant... Pour moi, le Bayern Munich, si on se place sur rester à Leverkusen n'est pas vraiment une option. Hein. Si on parle ici du Bayern ou de Liverpool, pour moi, le Bayern, d'accord, peut-être qu'effectivement, ce sera facile de gagner le championnat parce que t'es dans le plus grand club et la meilleure équipe, peut-être avec les meilleurs joueurs. Mais va au Bayern, continue d'apprendre, tu seras mieux en Ligue des Champions, tu pourras peut-être même aller gagner la Ligue des Champions avec eux et tu seras encore plus apte, je vais dire, et prêt, encore plus prêt pour aller à Liverpool.
Oh la condescendance, mon Polo, vis-à-vis de ton Bayern.
Non, mais c'est même pas ça. Mais je dis rien. Mais les marrantises, tu sais, c'est que l'Angleterre gagne l'Euro en Allemagne, quoi. Donc, tu vois le chambrage déjà là, tu vois.
Je te comprends.
Mais voilà, je pense que on dit souvent que le train passera pas une deuxième fois. Mais je pense que quand tu es Xabi Alonso, à l'âge qu'il a, les trains, que ce soit le Real, le Bayern, Liverpool, il repassera un moment. C'est obligé. Donc, le Bayern, pour moi, maintenant, et après, peut-être Liverpool.
Johan, tu es Xabi Alonso, tu fais quoi l'été prochain?
Bah, je suis sur le même avis que Julien, notamment parce que, je sais, moi, je suis encore, on va dire, plus définitif que Julien sur passer derrière Klopp. Pour moi, ça va être extrêmement difficile. Pas simplement sur le côté... football, mais aussi sur le côté émotion. Parce qu'il avait créé un lien extrêmement important avec les supporters à Anfield. Et que passer derrière ça, ça ne sera pas forcément simple pour celui qui va arriver derrière. Et d'ailleurs,
mais Xabi Alonso, il a déjà le lien. Yo. Donc tu vois, par exemple, tu prends un Ferguson et un David Moyes, là, il avait tout ça à créer. Xabi Alonso, il a déjà
ça. Il connaît le club, mais bon.
Mais il a pas le même lien que Klopp quand même, Julien. Il y a pas
non,
la même...
d'accord, mais il a été un très grand joueur.
Mais tu vois, par exemple, c'est pour ça que moi aussi, et là, il n'a pas le lien, mais... J'ai pas spécialement envie de voir de Zerbi à Liverpool, par exemple, pour la même raison.
On en parlera
tout à l'heure. Mais pour moi, effectivement, s'il doit partir de Leverkusen, parce que moi j'aimerais bien qu'il fasse encore une saison à Leverkusen, vraiment, parce que il peut y avoir des choses en Coupe d'Europe qu'on aimerait voir dans une meilleure compétition, parce qu'il y a des joueurs qui doivent amener encore plus haut.
Sachez un truc, on vous a sondé, hein, chers Afteriens et Afteriennes, sur les réseaux sociaux notamment. On vous a posé cette question, vous êtes Xabi Alonso, vous faites quoi? Il y a énormément de gens qui nous écoutent et qui nous suivent, qui disent, moi je serais Xabi Alonso, je resterai un an de plus. Moi je trouve que c'est un cadeau empoisonné aussi. Ouais, là il surperforme.
Non, je finis juste là-dessus, ouais. Mon Polo. C'est un peu comme... Spalletti qui gagne le Scudetto avec Naples.
Bah oui.
C'est impossible de faire mieux.
Et il l'a bien su, lui.
Il sait très bien qu'après, avec la Ligue des Champions, il va perdre des joueurs, etc., etc. Donc c'est très compliqué. Le côté sentimental voudrait que Alonso continue, que Leverkusen, en plus, qui a un, enfin, je veux dire, Bayer, c'est un beau groupe et qui peut garder quand même ses joueurs aussi. Hein. Attention, hein, on est en train de parler du FC Gif sur Yvette qui doit vendre ses meilleurs joueurs, tu vois. Donc,
respect Jean-Claude.
Moi, disons que mon option numéro 1, ça serait qu'il reste à Leverkusen. Mais s'il doit partir, effectivement, pour moi, la meilleure option, c'est le Bayern. Parce que aussi, il y a pas mal de choses à faire. Il y a pas mal de bons joueurs. Il y a pas mal d'argent. Il y a quand même beaucoup de facteurs qui vont dans j'arrive dans un grand club. Et on me donne quand même un peu de latitude.
Polo, juste avant que tu rebondisses, ton avis là-dessus, Fred, je crois que toi aussi, tu es plutôt partisan du « reste encore une saison à Leverkusen » et…
Bah, parce que le Real… Alors, Carlo Ancelotti a prolongé son contrat avec le Real jusqu'en 2026. Je ne pense pas qu'il ira au-delà de ces 2 ans. Et je pense que même 1 an, ça va dépendre des résultats. Parce qu'avec Mbappé au Real, je ne te raconte pas les exigences des dirigeants madrilènes. Ouais. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas champions au mois de mars, et si, par exemple, ils sont éliminés en quart de finale de la Ligue des Champions… ça va être très compliqué pour Ancelotti. C'est-à-dire, faut voir ce que représente l'arrivée d'Mbappé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune excuse. C'est-à-dire, c'est la pression sur Ancelotti.
C'est obligation de résultat.
Ah, c'est un truc de malade, de beau jeu, de résultat, etc.
Et donc, quoi, toi, tu dis quoi?
Reste un an de plus, maximum 2 ans, parce que mais je pense que dans 1 an, tu vas avoir le Real. Tu vas voir le Real avec Mbappé, avec Bellingham, avec Vinicius, avec des joueurs jeunes, avec une équipe qui est en train de monter. Passer après Ancelotti, ça va pas être si difficile que ça, parce que c'est le même, comment dire, Xabi Alonso, c'est très bien qu'il y ait Ancelotti, enfin, c'était son entraîneur aussi, donc tu vois, je pense pas qu'il y aura Alonso, l'arrivée dans le vestiaire du Real, du vestiaire d'Ancelotti, ça va se faire tout seul. Donc moi je pense que c'est une occasion, parce que de toute façon, il est évident, et ça, tous les gens à Madrid vous le disent, que Xabi Alonso, un jour, sera l'entraîneur du Real. Il a encore le temps. Mais là, ça peut être dans 1 an. Donc moi, je pense que… Et puis, faire qu'une seule saison au Bayern Leverkusen, ça me paraît pas beaucoup. Je pense qu'il faut peut-être aller au bout de l'aventure.
Ouais, mais il faut peut-être sentir les limites, non, du truc.
Bah, les limites du truc, enfin, les limites du truc,
c'est que… Vas-y, Polo.
Tu vis une saison exceptionnelle, tu vas en Ligue des Champions l'année prochaine.
Ouais, mais si tu t'effondres et que tu finis deuxième de Bouli…
Mais même si tu t'effondres l'année prochaine, on dira, mais c'est simplement…
Ouais, mais c'est la mémoire immédiate.
Mais non, on dira, c'est parce qu'il n'y avait pas les joueurs fous. Mais ça va pas remettre en cause ce qu'a fait Xabi Alonso cette saison.
Vas-y, Polo.
Il peut rester à Leverkusen si on lui offre un effectif équivalent, voire meilleur. Mmh. C'est ça la question. Et Simon Rolfes, donc, qui est le nouveau directeur sportif, celui qui a remplacé Rudi Völler, il y a 2 mois, il disait « il va rester avec nous, j'en suis sûr », et là, il commence à dire « on n'est jamais sûr de rien ». Donc, ce n'est pas tout à fait dans la communication la même chose. On parle, encore une fois, ce sont des rumeurs, de l'arrivée de Chris Führig, le joueur de Stuttgart, qui pourrait venir à Leverkusen, donc ce sera à peu près 15-20 millions. Leverkusen, même s'il y a la multinationale Bayer derrière, ce n'est pas un club qui peut acheter des joueurs du niveau du Bayern Munich. Et le problème, c'est qu'il va falloir que tu conserves après un euro, faut pas l'oublier. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une année, vous savez, où on a une compétition tous les 2 ans. C'est que là, l'euro sera parti. C'est-à-dire qu'en général, c'est là où les joueurs se disent « Bon, maintenant, allez, je suis resté à Leverkusen jusqu'à l'euro, j'ai réussi mon euro, je pars. » On n'est pas dans une année transitoire. Et c'est important, parce que je vous ai parlé de Grimaldo, je vous ai parlé de Wirtz, évidemment, le plus grand actif du Bayer Leverkusen, qui est très demandé, y compris par la Première Ligue, d'après ce que j'ai compris. Et puis, il y a un autre joueur, c'est Frimpong. On en parle aussi du côté du Bayern, parce que ça ne va pas du côté droit du Bayern Munich. Donc, le Bayern, s'il commence à faire une OPA sur les joueurs de Leverkusen, je suis Xabi Alonso, bah, ça devient compliqué de rester à Leverkusen. C'est ça, là, le problème. Boniface ne partira pas, parce qu'il a tellement explosé cette année que sa valeur est extraordinaire. Mais si tu n'arrives pas à garder ton effectif et que tu le renforces, je suis l'Espagnol, parce que c'est ça les coachs. Hein. C'est pas je reste pour vous faire plaisir, c'est pas la sécurité sociale. Hein. Je reste parce que vous m'offrez 2-3 jours en plus. C'est tout. C'est que des négociations comme ça, de toute façon, avec les clubs. Donc c'est ça qui me semble un petit peu compliqué.
Allez, dans quelques instants, on va se replonger sur le mercato des entraîneurs. Voilà ces autres entraîneurs qui vont animer, exciter votre été, cher drôle de dame. Avant cela, petit détour par Bonal. Patrick Müller, l'équipe de France Olympique affronte les USA ce soir.
Oui, et ça a été une entame un petit peu chahutée pour les Bleus avec cette grosse parade signée Reste, le portier de Toulouse, sur une tête de Maurice qui était tout seul. Ça va mieux pour les Bleus avec de la présence offensive et un joli coup franc à venir.
Allez, on vous attend au 32-16, after rien pour poser vos questions aux drôles de dames. On revient dans un instant sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Villas.
Fred Hermel, Johan Crochet, Julien Laurence, Paulo Breitner avec vous. On vous attend au 32-16 pour poser vos questions aux drôles de dames. On s'est mis dans la peau de Xabi Alonso. On a décidé ce qu'on allait faire l'été prochain avec nos drôles de dames, qui n'étaient pas forcément d'accord d'ailleurs. Ouais,
c'est là, tu me permets, parce que j'ai un message, quelqu'un qui trouve que j'ai maigri.
Sur le chat de la chaîne YouTube.
Ouais, c'est pour ça, j'ai maigri et oui, c'est vrai.
Quel mytho.
Mais sérieux, il m'a dit ouais, j'ai perdu 5 kilos. J'ai fait un régime et puis en plus c'est carême tout ça, donc c'est bien tombé. Donc voilà, excuse-moi parce que je vois qu'il y a des auditeurs qui me regardent et qui me regardent mon physique parce que je ne suis pas qu'une voix de radio, je suis aussi un physique de télé.
Ah non, je crois que tu as dit je suis aussi un physique de radio, mais d'ailleurs vous êtes très nombreux, vous remercie. Hein, merci pour votre fidélité, merci d'être avec nous sur le chat de la chaîne YouTube de l'After et puis pour les podcasts et tout ça bien entendu. Alors il y a deux entraîneurs qui vont exciter nos étés aussi au-delà de Xabi Alonso. Je sais Johan par exemple. Que tu es curieux de savoir ce qu'il va devenir de Roberto De Zerbi, hein, ton ouais. chéri.
Aïe. Ouais, mon chouchou, évidemment. Bon, ce qui est certain, c'est que.
C'est pas ouf avec Brighton cette année. 8e de première ligue, ils sont éliminés en 8e de finale d'Europa League par la Roma. C'est pas dingue ce qu'ils font cette année, on est d'accord.
En termes de résultats. C'est une vraie question ?
Ouais, non, mais en termes de résultats, c'est pas fou. Si.
Brighton,
ouais.
Première saison européenne, ils font 8e de finale et ils sont quand même 8e de première ligue, c'est pas ouf.
Non, bah, je sais pas. Je pensais que ça allait franchir un autre cap.
Il y a eu des débats cette saison.
Ouais, c'est pas
oui,
c'est pas régulier quoi, ça que je veux dire.
Non, c'est pas régulier, mais juste parce que c'est peut-être aussi la première fois que des joueurs ils jouent deux fois par semaine toute la saison.
Ah, excuse-moi Roland Courbis.
Et bah non, mais c'est typiquement ce que De Zerbi avait prévu.
Il faut pas dire du mal de son De Zerbi, hein. Il vient
oui, quand même. Mais en fait,
c'est qui mordrait.
Mais en fait, il a expliqué tout. À la fin de la saison dernière. Et tout ce qui se fait là cette saison, il l'avait prévu.
Ah, c'est dur, quoi, en fait.
Et le truc, c'est que ses dirigeants ne l'ont pas écouté sur le mercato. Ils ont vendu des joueurs très chers. Ils ont perdu trois titulaires très importants, Colwill, McAllister et Caicedo, pour les joueurs très importants. Et ça n'a pas été remplacé en termes de nombre, plus ou moins, mais de valeur. Et le souci qu'a Roberto De Zerbi, c'est qu'il avait dit, déjà, d'une, les joueurs mentalement... Ils sont pas prêts à jouer deux matchs par semaine. De deux, il y en a qui vont se blesser.
Ça veut dire quoi? Qu'il va partir alors, tu penses, cet été?
Les relations, elles sont pas dingues. Hein, là. Ouais. Encore plus, où cet hiver, ils lui ont pris personne à part Barco de Boca Juniors, alors que lui réclamait un milieu de terrain, un attaquant, etc. C'est complexe. Et moi, je pense qu'il restera pas à Brighton, que c'est trop compliqué maintenant. À moins qu'il lui fasse vraiment un gros mercato pour essayer de réparer ce qu'ils n'ont pas fait là depuis un an. Et si j'étais lui, au-delà du fait que l'Italie, pour le moment, ça me semble infaisable parce que c'est ce qui filtre quand on lui parle ou quand on parle à ses représentants, c'est que lui, il a envie de rester en Première Ligue, même s'il y a eu des contacts avec le Barça, notamment. Moi, je serais lui, je n'irais pas à Liverpool parce que, pour toutes les raisons que j'ai expliquées pour Xabi Alonso, j'irais à United. Parce que nouveau projet... parce que tu auras quand même, je pense, je sais pas, Julien me corrigera si c'est pas le cas, mais je pense qu'il aura quand même de l'argent à dépenser et de quoi recruter des bons joueurs. Je vais pas dire qu'il y a tout à faire, mais il a de quoi imprimer sa patte et faire en sorte que cette équipe lui ressemble et ressemble à ses idées. Et donc, et notamment, il n'y a pas un héritage dingue entre Eric Ten Hag et les supporters de United.
Alors Julien, qu'est-ce qui se dit en Angleterre concernant l'avenir de Zerbi là, en PL
nous,
notamment.
On dit que on a de plus en plus peur au club qui s'en aille, parce que le club aimerait qu'il reste un petit peu plus, mais effectivement, je pense qu'il y a quelque chose cette saison qui va pas, la façon dont il peut critiquer le propriétaire par exemple publiquement, qu'il n'avait jamais fait avant, que personne n'avait jamais fait d'ailleurs à Brighton, qui est pas très bien passé, mais il avait sûrement ajouté, il avait sûrement raison, hein, d'ailleurs, parce que je pense qu'à un moment il a été frustré lui aussi, comme l'a très bien expliqué Yo, de ce qui s'est passé cette saison. Et puis surtout, encore s'il y avait personne, aucun autre club qui le voulait, il resterait peut-être encore un an. Mais là, il sait très bien que sa cote sur le marché, elle est très élevée. Qu'il y a beaucoup de clubs, plus que d'habitude, qui vont chercher un entraîneur de Barcelone à Liverpool, en passant par, encore une fois, le Bayern, peut-être même des clubs italiens, français, voilà, tout ce que tu veux. Donc, je pense qu'il sait qu'il fait partie des favoris dans sur pas mal de marchés, pour pas mal de clubs. Donc, c'est sûrement le moment de partir. Pour United et Ten Hag, on ne sait pas encore. Il y a quand même beaucoup de signes qui laissent penser qu'il pourrait effectivement se faire virer cet été. Donc en plus, tu rajoutes United à tous les clubs dont on vient de parler. Je ne sais pas si United, ce serait vraiment mieux que Liverpool. Je ne sais pas si le Barça, c'est une bonne idée. Moi, si je suis des Zerbi, si on joue au même jeu qu'on a joué tout à l'heure avec Xabi Alonso, mais plus rapidement. Si tu es des Zerbi, tu vas où ?
je ne sais pas si le Barça, c'est une très bonne idée pour l'instant. Liverpool, pour les mêmes raisons que pour Xabi Alonso, c'est peut-être un petit peu compliqué. Franchement, je ne sais pas.
On a prononcé le nom du Bayern, Polo. Alors, je sais que c'est une information, une rumeur, on peut appeler ça comme vous voulez, qui fait beaucoup de bruit aujourd'hui. Ce serait le plan B du Bayern, des Herbiens.
Ouais, en fait, il y a deux, trois noms qui circulent. De Zerbi en fait partie, logiquement, par rapport à ses résultats. Le Bayern, je l'ai souvent dit, n'est pas un club actif, c'est souvent un club réactif. Et évidemment, il y a peut-être un changement de génération et des nouveaux qui arrivent. Et à partir du moment où De Zerbi est potentiellement sur le marché, ben, le Bayern va s'intéresser à lui. Mais ce serait vraiment dans un plan B par rapport à Xabi Alonso. Il faut bien jouer aujourd'hui au Bayern Munich. Ça fait partie où Lyonnais n'arrête pas de le répéter, que l'ADN du Bayern, qui n'a pas toujours été le beau jeu, est depuis une quinzaine d'années, en fait, forcé d'avoir des coachs qui jouent bien au football en plus d'avoir des résultats. C'est une nouvelle caractéristique. Et De Zerbi, naturellement, deviendrait un candidat au Bayern Munich.
Tiens, Polo, puisque tu as la main, est-ce qu'on a une idée, puisqu'on parle du Bayern, de ce que va ou veut faire Tourelle la saison prochaine ?
Alors, il y a deux choses. Je peux coupler avec Nagelsmann ?
Vas-y, fais-toi hein, plaisir, Polo, chez toi, t'es à la maison.
Non, mais Tourelle, évidemment, repartira d'Allemagne. De toute façon, ils n'en veulent plus. Hein. C'est assez dramatique, d'ailleurs, la façon dont médiatiquement on traite ce bonhomme, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Hein. Moi, par exemple, il ne m'intéresse plus du tout dans le jeu qu'il produit. Mais la logique, ce serait la Première Ligue, mais je pense que s'il y a une place comme un club au Barça, et ça me paraît évident qu'il sera un candidat naturel. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend d'un Thomas Tuchel sur le marché quand on connaît les difficultés ou de lui ou de son clan, hein, de son entourage, pour essayer d'avoir les meilleures conditions possibles, pourquoi, du comment, et les difficultés qu'il a sur, notamment ceux qui sont responsables du recrutement. Quand il ne veut pas un joueur, il ne veut pas un joueur. Et ça se voit, c'est-à-dire que le gars, si c'est lui, il ne l'a pas choisi. C'est fini, le gars, il est plus du tout là, il est plus du tout là, quoi. Donc on a fait semblant avec Kimmich que ça se passait bien. Non, mais non, ça se passe pas bien avec Joshua Kimmich. C'est pas possible. Et si lui a lancé en début de saison le fait qu'il ne voulait plus Joshua Kimmich et le fait du 6, il va pas changer en cours de saison. Donc il est un peu psychorigide à ce niveau-là.
Fredo.
Et puis l'autre, bien sûr, c'est Nagelsmann, je m'excuse.
Oui, vas-y, pardon.
Nagelsmann, il est encore, ne l'oublions pas, sous contrat avec le Bayern Munich. Et il est prêté, il est mis à disposition à la Fédération allemande. La Fédération allemande souhaite le prolonger comme Rudi Völler après l'Euro. Nagelsmann n'a pas fermé la porte à une prolongation avec l'équipe nationale. Mais moi, je suis Nagelsmann. Si je réussis un bon Euro, si le Bayern commence à se rendre compte qu'ils ont peut-être fait une erreur à l'époque en me faisant partir, et en me remplaçant par Thomas Tuchel, vu que j'ai éliminé, entre guillemets, la génération intermédiaire, je peux peut-être revenir au Bayern plus fort que jamais, quoi.
Tiens, juste pour revenir à Tuchel, c'est vrai que son nom a fait pas mal d'écho en Espagne. D'ailleurs, lui-même, dans une interview il n'y a pas longtemps, il avait déclaré, ça avait fait grand bruit, qu'il était très fan de la Liga. Toi, tu y crois au Barça ou pas ? Parce qu'il y a l'histoire de Xavi qui revient, on en a souvent parlé les lundis notamment, mais...
Ben, c'est-à-dire que Xavi, alors là on sent qu'il y a une grosse campagne du côté des dirigeants du Barça.
Ouais, mais moi j'y crois pas un instant, pour moi c'est de la com, Fredo.
Bah oui, d'accord, mais d'ailleurs que tu vois des journalistes, parce qu'il faut savoir lire, quand tu lis les journaux, il faut savoir lire les signatures.
Ouais.
Et quand tu vois que des journalistes qui ont un certain poids, mais tu sais d'où vient l'information, qui disent « Ah non, mais Xavi, c'est bien, il y a quelque chose qui est en train de se passer, il faut qu'il reste, etc. » On sait très bien que c'est... Puis c'est-à-dire que pendant qu'on parle de Xavi reste, on parle pas du fait qu'on sait pas qui va le remplacer. Mm. Donc là aussi, hein, je sais comment les clubs savent manipuler certains journalistes, certaines plumes. Et vu la relation qu'il a avec Deco, ça me paraît incroyable que Xavi reste. Après, j'ai vu tellement de trucs dingues dans le football que je ne peux pas dire, mais Xavi l'a annoncé qu'il partait.
Mais Tuchel, tu n'y crois pas au Barça ?
Mais en fait, la question, c'est de savoir dans quel état financier sera le Barça la saison prochaine. Ouais. Quels joueurs ils vont pouvoir garder et quels joueurs ils vont pouvoir faire venir. Ouais. Parce que là, ils sont à moins de 200 millions sur la masse salariale. Donc, ils sont obligés de dégraisser pour l'instant. C'est-à-dire que c'est un tel problème financier qu'a le Barça aujourd'hui que c'est-à-dire que quand j'écoutais Polo qui disait oui, Xabi Alonso, ça dépend quel joueur il aura l'année prochaine, mais le projet du Barça, ce sera quel joueur. Alors, il y a toujours de bons joueurs, mais est-ce que le Barça va pas être obligé de vendre quelques... Là, pas vendre son Barça Studio ni des trucs dont on connaissait pas. Ouais. Il va être obligé de vendre des joueurs, des vrais joueurs là. Donc automatiquement, si tu vends de, et en général, tu vends pas les mauvais. Hein. Tu vois, tu vends les bons. Donc c'est-à-dire qu'il y a tellement d'incertitudes aujourd'hui autour. Moi, je me demande finalement si Xavi s'en va. La logique, ce serait d'avoir Rafa Márquez, les joueurs, parce que lui, à n'importe quel Barça, il prendra. Tu vois, l'entraîneur de l'équipe B, qui s'est un petit peu trop mouillé, qui s'était fait un peu taper sur les doigts. Tellement il avait présenté vite ça. Le soir même, il présentait l'annonce de Xavi, présentait sa candidature. Donc c'était mal vécu. Mais je suis pas. Alors c'est toujours intéressant pour un entraîneur de venir au Barça. Mais le Barça actuel, avec toutes les incertitudes financières, je pense que ça peut refroidir certains.
On va passer à la minute anglaise et ça va parler d'entraîneur là aussi. When you walk through a storm. Alors Julien Laurence, tu as choisi la musique légendaire d'Anfield pour revenir sur le rêve réalisé par Sven-Goran Eriksson il y a quelques jours.
Ah, c'est la seule chanson que vous pouvez utiliser ce soir. Hein. D'ailleurs, on devrait la laisser un petit peu plus, surtout pour le refrain encore une fois. Parce qu'on a eu un match amical caritatif samedi à Anfield devant 56 000 personnes entre une équipe de légendes de Liverpool avec Steven Gerrard et Fernando Torres par exemple, contre une équipe de légendes de l'Ajax avec Gary Littmanen bien sûr, mais aussi Edgar David, ce genre de joueurs là. Mais c'était un match très particulier, pas simplement parce qu'on a des matchs comme ça de légendes assez régulièrement dans nos clubs, dans nos pays, mais parce que sur le banc de Liverpool, c'était pas un ancien entraîneur de Liverpool qu'on a trouvé, c'était Sven-Goran Eriksson, qui a 76 ans aujourd'hui, qui a atteint d'un cancer incurable. Et les jours où il a annoncé qu'il avait ce cancer, il a aussi exprimé son rêve un jour de pouvoir entraîner Liverpool, l'équipe qu'il supportait étant enfant, qu'il a toujours admiré, qu'il a toujours supporté finalement, même quand il était entraîneur, même quand il l'affrontait. Et Liverpool et Jürgen Klopp ont réalisé son rêve de manière tellement émouvante samedi, vraiment, c'était vraiment beau. L'ovation, ses larmes à lui, bien sûr, que toute sa famille soit là aussi, et que tout le monde lui a rendu un si bel hommage. Alors, lui, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, l'entraîneur qu'il a pu être pour l'Angleterre, en Italie, un petit peu partout, mais voilà, qu'il ait entendu cette chanson, cet hymne, comme ça, à Anfield, et lui, en tant qu'entraîneur de Liverpool, juste pour un jour, c'était assez magnifique.
Voilà, bel hommage rendu par Anfield à Sven-Goran Eriksson. Bel hommage également de ta part, Julien. Dans un instant, on va revenir avec nos drôles de dames. Les larmes de Vinicius, là aussi, un gros moment d'émotion. C'était tout à l'heure en conférence de presse avec le Brésil. Et puis Igor Tudor, qui a signalé à la Lazio, l'ancien coach de l'OM. Bon choix ou pas ? Explication avec Yoann Crochet juste après ça sur RMC. Tiens, et avant de partir, le temps, le score entre l'équipe de France Olympique et les USA, Patrick Muller.
25 minutes de jeu quasiment ici et toujours 0-0 entre les Bleuets et leurs homologues américains.
Ça joue comment, Pat ?
C'est mieux, beaucoup mieux pour les Français avec trois occasions coup sur coup, et notamment Ryan Cherki là, qui a trop croisé sa frappe.
Est-ce qu'il a manqué
Ouais. Mais c'est sans doute le meilleur Bleuet pour l'instant depuis le début de cette rencontre. Entame assez difficile et là ils sont en train de prendre l'ascendant et surtout ils vont bénéficier d'un pénalty, semble-t-il, les hommes de Thierry Henry.
Ah oui,
apparemment.
La main
apparemment.
De Sam.
Moi j'ai vu une main de Cherki, moi.
C'est l'arbitre espagnol.
Encore un qui est sur Real Madrid TV, celui-ci.
Et ce sera Kalimuendo qui devrait se charger de ce.
Vas-y, on t'accompagne pendant le penalty. On est là pour t'accompagner, comme dit Walid.
Ah bah voilà, ça me fait plaisir. Bon, ça.
Très bien, but, hein, comme on dit.
Ça pourrait consacrer en tout cas et récompenser cette bonne période des Français là, qui ont eu trois grosses occasions coup sur coup. Il y a eu une frappe surpuissante d'Andy Diouf après un bon travail.
Quel beau maillot des Bleus, Dakliouch.
Il est beau.
Ah ouais.
Et il y avait une première situation tout à l'heure, déjà avec une frappe de Kalimuendo dans un angle fermé. Il a l'occasion d'ouvrir la marque, le joueur du Stade Rennais. C'est chose faite. Voilà le pénalty transformé, le contre-pied parfait. Ça fait 1-0 pour les Bleus.
Et mon but, États-Unis.
But. 26 minutes. Et ça rime, Voilà.
Allez, à tout de suite. Allez, sur RMC. But.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Villas.
Julien Laurence, Fred Hermel, Yoann Crochet, Paulo Breitner sont avec nous. On vous attend à partir de 21h45, dans 10 minutes, pour poser vos questions à vos drôles de dames, comme chaque lundi. Tiens, on va évoquer une séquence très forte, alors qui s'est déroulée aujourd'hui lors de la conférence de presse du Brésil. Vinicius Junior, le joueur du Real Madrid, a été interrogé sur les attaques racistes dont il a été la cible dans des stades en Espagne. Il a expliqué qu'il devait se concentrer sur le foot avant de fondre en larmes et d'être applaudi par les journalistes présents dans la salle de presse.
Eu só queria jogar futebol, só quero
fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família.
Voilà, je veux juste jouer au foot, hein, tout faire pour mon club et pour ma famille, dit-il, avant de d'éclater en sanglots. Alors, il a même conclu en disant « Je suis de plus en plus triste, j'ai de moins en moins envie de jouer, mais je vais continuer de lutter. » Voilà, c'est rare de voir Vinicius comme ça. Je sais que tu as été très marqué, toi aussi.
Moi, je l'ai jamais vu comme ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'image du Vinicius un peu, tu vois, un peu chambreur, toujours un peu rigolo et tout sur la pelouse, etc. Mais on a l'impression que ce joueur-là, il est en train de se protéger par l'humour ou même par ses réactions un peu de râler auprès de l'arbitre, etc. On dit on en fait des trucs, etc. Mais c'est peut-être aussi sa manière de se protéger. Et l'ancien exilé que je suis comprend que c'est dans un contexte de son pays, parce qu'il est dans la sélection espagnole, que là il pleure. C'est-à-dire que quand vous vivez à l'étranger, vous êtes beaucoup plus fort, en fait. Voilà, on ne veut pas montrer sa faiblesse. Mais on se lâche un peu quand on est dans le contexte familial. Là, il est à Bernabéu, où demain là, l'Espagne affronte le Brésil, mais il est dans le contexte de la sélection brésilienne. Il est dans sa langue, le portugais, enfin le brésilien. Et à ce moment-là, là, on sent que c'est plus le Vinicius qui se protège, il se lâche. Et on a aujourd'hui vu le véritable visage de Vinicius. En fait, qui est un gamin de 23 ans.
D'ailleurs, il le dit hein, dans cette longue conf de presse. Ouais.
Hein. Il se fait insulter dans tous les matchs. Il y a des cris de singe. Il se fait insulter de tous les matchs. L'autre jour à Pamplune, c'était Moualete va meurt. Crève Vinicius, t'as 23 ans. Tu veux simplement jouer au foot. Et dans la mauvaise ambiance que j'évoquais tout à l'heure dans le football espagnol, il y a ça aussi. Quand vous avez des journaux qui, pour défendre leur club, justifient le racisme et les insultes, en disant que c'est bien fait pour sa gueule parce qu'il provoque. Non, il provoque pas. Il est meilleur que toi. Il est meilleur que tes joueurs de merde. Tu vois, il est meilleur. Et t'es jaloux parce que t'as pas un joueur comme ça. Je commence à m'énerver. Parce que moi, de voir pleurer, ça m'a fait quelque chose. Parce que oui, il gagne plein d'argent. Oui, il est super célèbre et tout. Mais c'est un gamin de 23 ans. Vous vous souvenez, nous, comment on était à 23 ans? Vous imaginez, nous, même encore aujourd'hui, si dans notre... Pourtant, on a quelques années, à chaque fois qu'on faisait notre métier... Notre travail, notre passion, on était insultés. Tu me diras, c'est fréquent, mais tu vois, c'est-à-dire que là, que tu fasses ton métier avec des insultes dans les oreilles, et notamment des insultes racistes. Ouais. Donc, à un moment, voilà, il y a une vraie réflexion autour de ça, et je trouve que ce qui s'est passé aujourd'hui m'a beaucoup ému, mais ce qui m'a énervé aussi, c'est que automatiquement, en Espagne, t'as eu plein de gens qui l'ont critiqué en disant « Ouais, tu pleures, tu fais exprès, mais de toute façon, ta vie... »
Il n'y a pas qu'en Espagne, mais les réseaux sociaux, tu sais comment
c'est. Mais tu vois, tu provoques tout le monde, etc. Non, tu provoques pas, tu joues au foot et t'es meilleur que les autres. Quoi. Donc voilà, c'est le talent et la gentillesse qui sont finalement attaqués. Donc il y a, et de toute façon, hein, l'Espagne était modélique depuis quelques années, mais là, depuis le Covid, c'est reparti, mais... vraiment n'importe comment dans la violence, dans le racisme, dans les insultes, c'est vraiment dégueulasse quoi.
Alors rien à voir, on voulait juste également évoquer ça puisque ça a été une séquence très forte que vous pourrez trouver d'ailleurs sur rmcsport.fr avec l'ensemble des déclarations, le principal des déclarations de Vinicius Junior au cours de cette conf de presse. Rien à voir, autre entraîneur, puisqu'on parlait des entraîneurs qui est dans l'actu, c'est Igor Tudor, l'ancien entraîneur de l'OM, qui s'est engagé avec la Lazio. Alors bonne idée ou pas d'ailleurs qu'il soit allé là-bas, Yo?
Moi je trouve que c'est une très bonne idée. Déjà il faut remettre le contexte de quel type d'entraîneur peut... attirer la Lazio. Ils vont pas attirer De Zerbi, ils vont pas attirer ce type d'entraîneur-là. Parmi ce qui était proposé, disponible, je trouve que c'est sans doute le meilleur choix pour plusieurs raisons. La première, elle est évidemment côté terrain, parce que ils vont retrouver du côté de Rome des mécanismes, un schéma, deux choses qui seront assez proches de ce qu'avait Simone Inzaghi quand il était à la Lazio. Défense à 3, alors après ça peut être modulable, 3-5-2 ou 3-4-2-1, même lui en conférence de presse de présentation, il a dit, on pourra peut-être jouer, alors tout le monde lui a dit, alors le 3-4-2-1 comme à Vérone, comme parfois à Marseille, etc. Et ouais, peut-être qu'on pourra jouer à 3 aussi au milieu de terrain, donc 3-5-2 éventuellement, donc il y aura des mécanismes avec des joueurs qui sont habitués à ça, et des joueurs, notamment par exemple Casale, le défenseur central, qui a connu Tudor à l'Hellas Vérone, donc il va le retrouver, lui qui a perdu sa place et qui joue plus, avec Sarri jouait très peu, dans une défense, enfin pas la première saison, la saison actuelle. Il va retrouver, je pense, des mécanismes qu'il connaît bien. Lazzari, Manuel Lazzari, qui avait perdu aussi sa place sur le côté, qui est une vraie mobilette, lui, qui fait les allers-retours sur le côté, qui va très très vite en transition et qui amène beaucoup de choses. Là, je pense que ça va aussi lui parler, ce type de football-là. Donc il y a pas mal de joueurs qui vont retrouver des mécanismes qu'ils avaient un peu perdus avec Sarri, même si Sarri avait réussi à mettre en place un peu quelques-unes de ses idées. Le deuxième point, c'est sur l'exigence. Et d'ailleurs, Claudio Lotito, le président de la Lazio, en conférence de presse, il accompagnait son entraîneur, il avait dit c'est un entraîneur parfait d'un point de vue tactique et sur le plan de l'exigence.
Et d'ailleurs, il avait déclaré, après que Sarri soit parti, qu'en gros, son vestiaire était ingérable, que les joueurs faisaient n'importe quoi. Il a dit, j'ai vu des trucs complètement dégueulasses, quoi, un truc du genre, en parlant du comportement de ses joueurs.
Ça fait partie des limites des clubs romains, dont j'ai souvent parlé du côté de la Roma, mais c'est un peu pareil à la Lazio. C'est un peu pareil parfois à Naples aussi. C'est ces clubs du sud de l'Italie où on les oppose parfois aux grosses machines d'exigence, d'institution du nord de l'Italie. Et effectivement, les clubs romains et le Napoli, c'est pas forcément ça et c'est un petit peu plus difficile. Donc quand tu prends un entraîneur qui va mettre de l'exigence, c'est ce qu'a amené Mourinho aussi quand il est arrivé au départ, c'est jamais une mauvaise idée. Il faut aussi redonner de l'enthousiasme à un environnement qui en a beaucoup perdu cette saison.
Qu'est-ce que tu appelles l'environnement, c'est-à-dire
les supporters, les gens qui entourent, même à l'intérieur du club, les salariés, etc. L'environnement en Italie, c'est tout ce qui définit le club en termes de supporterisme et
l'entourage,
des gens qui travaillent. C'est même pas que l'entourage, mais c'est
l'atmosphère qui est autour.
L'atmosphère qui est autour du truc. Exactement. Ouais. Et ils ont été un peu déprimés par ce qui s'est passé dernièrement. Il y a eu quelques lueurs comme ça. Il y a eu le derby aller qu'ils ont gagné contre la Roma. Il y a eu la qualification en huitième de Ligue des Champions, la victoire donc contre le Bayern. Il y a eu quelques flashs comme ça dans la saison, mais une saison assez morose. Et Tudor, avec son jeu très énergivore, avec son idée d'être comme assez offensif, même si au départ ça peut paraître un petit peu prudent, mais de lâcher les chevaux en transition, ça amène quelque chose, ça suscite quelque chose dans les travées du stade. Donc je pense que ça peut aider. Et je vous ai sorti deux, trois petites phrases très rapidement pour boucler sur sa conférence de presse. Quand on lui parle de divertissement, lui il répond, moi je veux gagner. Quand je regarde un match à la télé, si au bout de 10 minutes ça ne me plaît pas, je change de chaîne. Si je dois jouer façon Catenaccio comme un club de province pour gagner un match, je suis capable aussi de le faire. Deuxième chose, le football évolue vers une composante physique de plus en plus importante, vers un jeu de plus en plus rapide. L'entraîneur doit s'adapter à ses joueurs sans renoncer à ses idées fortes. Il a vachement insisté sur le côté évolution du football. Et effectivement, son style s'inscrit plus dans cette évolution que le style de Sarri, par exemple. Troisième chose sur Guendouzi, parce qu'évidemment, ça va devenir un pilier de la Lazio. Enfin, ça l'est déjà, mais
dont les rapports étaient un peu bizarres, on va dire, à Marseille. Ouais.
Exactement. Et lui, il a dit, je suis content de le retrouver à la Lazio. J'ai un bon feeling avec lui. Il a de l'expérience. Il veut toujours gagner, toujours jouer. On fera de belles choses ensemble. Attention, les trois premiers matchs, quand même, en une semaine, à la reprise, là, après la trêve internationale. Réception de la Juve en championnat. Déplacement à Turin, demi-finale aller de Coupe d'Italie, contre la Juve. Derby de Rome. Deux matchs contre la Juve, derby de Rome en une semaine. Un thème assez intéressant pour Tudor. Et il a dit une petite phrase qui fera réfléchir certains, et Daniel n'est pas là, mais il aurait bien aimé. Entraîner en Italie est plus facile car il y a une grande culture de travail chez les joueurs.
Ça va faire plaisir aux Marseillais. Ouais. Voilà. Merci Johan. Allez, petite musique allemande, tiens. Alors pourquoi cette musique, mon Polo ?
Parce que Nina Hagen, déjà.
Oui, ça se tient.
Une chanson de 2022. Parce que les comptes pour la saison 2022-2023 sont sortis en Allemagne pour la première et la seconde division qui dépendent de la Ligue allemande. Et la Bundesliga est revenue dans le bleu, est revenue à récupérer, à équilibrer ses comptes. On a eu un chiffre d'affaires record de près de 4,5 milliards, ce qui, si vous divisez par 18, fait une moyenne par club de 250 millions. Ce qui, d'ailleurs, aussi là, est l'une de mes thématiques favorites, parce que j'aimerais bien aussi, quand on parle des clubs français, de la taille des clubs français, ou quand, avec Julien, on dit que Aston Villa ou Stuttgart, ce n'est pas Brest, il y a aussi des conséquences derrière. Et pour la première fois, et ben, si tu veux, on a le sentiment que la période Covid est vraiment finie en Allemagne. Alors, il y a eu énormément d'efforts faits sur la masse salariale. L'Allemagne s'est beaucoup endettée durant cette période. Et je me posais la question. Alors, en Allemagne, ils sont tous
très content. Moi, je l'analyse depuis plusieurs années, donc je considère qu'on n'a pas encore passé la période du Covid. Mais en tout cas, la chanson de Nina Hagen, c'est Geld, Geld, Geld. Donc l'argent, l'argent, l'argent. Et on a le sentiment que les Allemands, en tout cas la Bundesliga, est sur le bon chemin pour retrouver une croissance, je n'ai pas envie de dire saine, mais en tout cas constante.
Eh bien, le bon chemin pour la croissance constante, c'est le 32-16. Venez poser vos questions aux drôles de dames. Et elles vous attendent. Max vous attend au standard, lui aussi. Julien, Laurence, Fred Hermel, Johan Crochet, Paulo Breitner vous attendent. A tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Villas.
Et nos drôles de dames ensemble jusqu'à 22h. Nico Jamin sera là pour prendre le relais à partir de 22h. On vous attend au 32-16 pour poser vos questions aux drôles de dames. Et on perd pas de temps. On a Guillaume qui nous a appelé au 32-16, qui nous appelle de la magnifique ville de Poissy. Où est né ?
Bonsoir tout le monde.
Salut Guillaume. Qui est né à Poissy ?
Je sais pas du tout.
On vient d'en parler il y a 10 secondes. Matteo Guendouzi.
Voilà. Matteo Guendouzi.
Et sache-le, un beau gosse de la radio, Nico Villas aussi. Alors Guillaume,
tu es à Poissy ?
Ouais, je suis né à Poissy, effectivement. Tu avais une question pour un autre beau gosse, pour Julien Laurence.
Absolument.
Qui n'est, pas né à Poissy.
Non.
Non, mais pas très loin.
Ah ouais, t'es né où toi ?
Bah, moi, dans le 12e, à Bastille.
Bon, rien à voir, c'est loin quand même. Bon, c'est la même région.
À Paris, je veux dire, voilà, c'est pas comme si j'étais né à Marseille ou à Lyon ou à Bordeaux. Je sais pas où, moi, tu.
Pardon, excuse-moi.
C'est la même région, toi aussi.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Excuse-moi, vas-y, Guillaume.
C'est plus cher, le 12e, quand même.
Ouais.
Je ne sais pas si la connaissance des joueurs va jusque-là, mais dans la folie des achats de Chelsea, il y a quand même des minots, mais des petits. Et je me posais la question sur KCDI, s'il avait des news sur ce joueur, parce que de ce que je vois, il a l'air de sortir un petit peu du lot, et puis le petit Washington aussi. Donc voilà, savoir si il faudrait suivre ces jeunes-là ou non.
D'ailleurs, Washington, il est de la région parce qu'il est d'ici.
Oh.
Ah là, ça c'est la blague de l'année.
Tu sors, là.
Vas-y, Jules.
Très bonne question. Alors, tu sais, il était en prêt à Leicester la première partie de saison avec Enzo Maresca, où il était très bon. Et d'ailleurs, Leicester sont toujours d'ailleurs très bons en Championship. Et il devrait monter, même si je pense qu'ils vont prendre des points de pénalité. Et puis Chelsea a décidé de le rappeler sans qu'on sache vraiment trop pourquoi, finalement, sans que ce soit trop expliqué non plus, parce que depuis qu'il est revenu. Il joue 5 minutes contre Liverpool, 3 minutes par-ci, 4 minutes par-là. J'ai pas trop compris en fait la logique derrière le rappeler du prêt à Leicester, où ça fonctionnait très bien dans une équipe qui joue comme une équipe de première ligue, en plus qui joue très bien au ballon avec un entraîneur comme Maresca où il apprenait clairement beaucoup, et qui continuait finalement sur la lancée un petit peu ce qu'on avait vu à la Coupe du Monde des U20 avec l'Italie et tout ça. Donc c'était vraiment bien, et puis je sais pas pourquoi. Il prétendrait Santos à Strasbourg, qui joue au même poste. Ça, c'est très bien. Et tu rappelles un jeune joueur comme Casadei qui a besoin de jouer. Et au final, tu ne le fais pas jouer. Donc, je ne sais pas. Peut-être que Pochettino voulait le voir à l'entraînement. Je n'ai pas trop compris. Mais oui, à mon avis, c'est quelqu'un, Yo pourra sûrement confirmer aussi, qui a un très, très gros potentiel. Hein, qui était un très gros potentiel déjà à l'Inter. C'était un très joli
coup
de la part de Chelsea d'être allé le chercher là-bas. Et voilà. Après, Washington, c'est différent parce que lui, on ne l'a pas vu du tout, quasiment. Mais tu sais, c'était depuis l'arrivée des Américains, cette volonté d'aller chercher les meilleurs jeunes pour les valoriser et puis j'imagine les vendre ensuite. Mais en tout cas, pour Casadei, on verra les programmes. Mais j'ai pas trop compris, si tu veux, le rappel du prêt de Leicester.
Alors, merci Guillaume de nous avoir appelé au 32-16. On enchaîne. Il y a beaucoup d'appels hein, d'ailleurs au 32-16. Anzo nous a appelé également. Ciao Anzo. Comment va ?
Caraga.
Ah, c'est pas pour moi la question.
Anzo. Va bene, va bene, Anzo.
On le connaît, Anzo.
C'est que t'es
fidèle.
C'est une question pour Ioan Crochet, tant que t'es au calme.
Exactement. Je voulais élargir un peu après cette magnifique saison qu'on est en train de vivre du côté du Napoli. Aujourd'hui, il y a la notif qui est tombée comme quoi Calzona ne serait pas maintenu. Bon, on est à moitié surpris du côté de Naples. De toute façon, on se demande qu'est-ce qui va rester à la fin de la saison. Mais par contre, on essaye un peu de se projeter et j'aimerais avoir un peu son de cloche sur le futur entraîneur qui pourrait être à la tête du club, avec de mon côté une petite préférence pour Vincenzo Italiano s'il vient avec le duo argentin Quarta et González, quoi.
Alors, favori numéro 1, clairement Italiano. Il y a clairement une fin de cycle de 2 ans à la Fiorentina, et même pour lui, je pense que les 2 ans qu'il a fait, c'est très bien, parce qu'il venait quand même de Spezia, donc c'était pas non plus un très gros club. Et la progression logique maintenant, c'est d'aller chercher le top 6 italien. Et le Napoli a besoin d'un entraîneur de ce type-là, un entraîneur qui reparle de terrain, un entraîneur qui remet des choses en place sur le terrain, un entraîneur qui recomprend à nouveau ce qu'est le Napoli, comment doit jouer le Napoli, quelle émotion il doit faire passer à son public, qu'est-ce qu'il doit tirer de ses joueurs, parce qu'il y a des joueurs qui ont totalement disparu et c'est pas normal. Un joueur comme Raspadori a totalement disparu et c'est pas normal. Un joueur comme Lindström, il est pas dégueulasse. Il est en capacité de jouer en Serie A. Et je pense qu'avec un entraîneur comme Italiano, qui est très attaché à développer un style de football attrayant, qui valorise les joueurs et qui entre dans un cycle qui aide le club aussi à devenir compétitif à la fois en championnat, mais aussi sur certaines compétitions européennes, je pense que c'est effectivement le meilleur choix possible pour le Napoli, même si un autre entraîneur qui est encore en poste, et peut-être qu'il restera en poste, j'ai quelques doutes là-dessus, mais qui pourrait être intéressant pour le Napoli, c'est Stefano Pioli. Dans le genre, ramener de la normalité, faire progresser aussi les joueurs,
c'est deux avoir de l'ambition. C'est de ce qu'il vit là quand même. Hein.
Ouais, ouais, mais ça serait très intéressant aussi, je pense, pour le Napoli d'avoir un entraîneur comme Pioli.
Merci Anzo de nous avoir appelé. Autre appel pour les questions de nos drôles de dames, c'est Renaud qui nous a appelé au 32-16. Salut Renaud.
Oui, bonsoir Nicolas et bonsoir à toute l'équipe.
Salut Renaud. Alors, t'avais une question. C'est gentil, en tout cas, t'es bienvenu Renaud. T'avais une question pour qui Renaud?
C'est une question pour Frédéric Hermel, bien sûr.
Bien sûr, vas-y pour Frédéric. Bien sûr. Frédéric, on ne l'a pas appelé comme ça depuis 92, il se faisait engueuler.
Ouais, c'est quand même. Quand c'est Frédéric Hermel, c'est qu'elle a vraiment un truc à me dire.
Alors vas-y Frédéric.
Ben oui, mais c'est un peu logique. Mais après, vu mon tropisme espagnol et sud-américain, c'est un peu normal que ce soit Fred que je sollicite. Ouais, demain, il y a un très très beau match amical qui va avoir lieu à Lens, d'ailleurs, hein, dans le Nord-Pas-de-Calais, entre la Côte d'Ivoire et l'Uruguay. Je trouve que c'est une affiche tout à fait magnifique. Et je voulais avoir un peu l'avis de Fred, en sachant que l'Uruguay, qui avait bien terminé l'année 2023 avec des résultats absolument incroyables, on se souvient de leur victoire consécutive contre le Brésil et contre l'Argentine dans le cadre de la qualification pour la Coupe du Monde 2026 pour la zone Amérique du Sud. Là, ils ont fait un match plutôt moyen, visiblement, contre une sélection du Pays Basque, même s'il y a peut-être quelques joueurs qui sont plutôt pas mal. Je voulais avoir son avis ou son sentiment sur la rencontre de demain.
C'est le tour de Frédéric.
Alors, comme tu sais bien, je ne suis pas le spécialiste du football sud-américain. Je peux simplement te parler de Fede Valverde, par exemple, qui est l'un des leaders de cette sélection uruguayenne. Et c'est vrai que Valverde, on le sent, alors toi qui suis la sélection uruguayenne, il était quand même l'un des moteurs du Real et l'un des moteurs de la sélection uruguayenne. On le sent un petit peu en dedans cette saison. C'est-à-dire que beaucoup moins de régularité, il marque moins. Il tente moins de régularité. On va dire qu'il pèse un petit peu moins sur le jeu. Même si c'est quelqu'un qui bosse beaucoup, on a l'impression qu'il pèse un petit peu moins sur le jeu du Real cette saison. Mais je dois dire que je ne suis pas un grand spécialiste.
Ils viennent jouer contre le Pays Basque, c'est ça, là. Ils viennent de faire un partout d'ailleurs.
Ça aussi parce qu'il y a des sélections.
Faudrait qu'on fasse un truc là-dessus.
Parce qu'il y a sélection catalane, sélection basque, sélection asturienne. Il y a plein de sélections bis catalane, bien entendu, régionale.
Il y a même l'équipe de Sicile, il y a la sélection de Sicile, de Sardaigne.
Ouais. Ah ouais, ça existe ça aussi.
Moi j'ai le maillot de la Sicile, ouais. On m'a offert. La Corse, bien sûr, la squadra Corse, excellent podcast.
Je me demande, je crois qu'il y a même une sélection de la Manche, la Mancha aussi. Donc, ouais. Et je crois que tu voulais parler de Vinicius aussi.
On n'aura plus le temps, les gars. Là, il reste 10 secondes. On en reparlera plus tard. Bon, Renaud, merci de nous avoir appelés en tout cas.
Merci.
De rien, c'est avec plaisir. Nicolas, je vous annonce en exclusivité sur RMC, le vainqueur de l'Euro 2024, ce sera le Portugal.
Écoute, Enchara, okay. Comme on dit chez nous. Voilà. Merci.
Je le sens bien.
Oui, j'aimerais bien le sentir aussi. Voilà. Enchara.
C'est Ojalá en espagnol.
Ouais, c'est ça. Ça vient d'Inch'Allah.
Ça vient d'Inch'Allah, exactement.
Merci beaucoup. Merci Polo. Merci Julien. Merci Fred. Ciao. Merci Yoann. L'After qui est là, qui vous attend au 32-16. Nico Jamin arrive, il prend le relais. On est là jusqu'à minuit, comme chaque soir, bien entendu. Bisous, prenez soin de vous. Et à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.